Une statistique dit qu'entre un tiers et la moitié des coureurs se blessent dans l'année. Alors autant dire que la douleur est un sujet que nous partageons tous. Nous avons tous connu des douleurs, plus ou moins fortes, plus ou moins longtemps. C'est pourquoi un épisode sur ce sujet était incontournable. Déjà pour définir ce qu'est la douleur, pourquoi nous avons mal, comment aller mieux. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Périostite, fracture du coude, genou, tassement lombaire, arthrose, sciatique, hernie et dernièrement une entorse. C'est la liste de mes douleurs et potentielles sources de douleurs sur ces dernières années, en fait en à peu près en moins de 10 ans hein, tout simplement. Pour certaines, je connais la source, je suis tombé. Pour d'autres, je n'en suis pas réellement certain. Est-ce la course à pied? Est-ce que c'est trop de course? Est-ce que ce sont mes chaussures? Est-ce que c'est la sédentarité? D'ailleurs, comment en être certain? Car finalement, c'est quoi la douleur exactement? Pourquoi avons-nous mal? Pour en discuter, j'ai invité Pierre Elie, créateur de la chaîne YouTube et du compte Instagram Les Chroniques de la Douleur. Ensemble, nous allons parler de ce qu'est la douleur, de ce qui fait mal, de ce qui pourrait faire mal, de ce qui ne fait pas forcément mal. Et vous allez découvrir que c'est bien plus compliqué que « je me cogne, je me tords la cheville, j'ai mal » ou « j'ai un muscle abîmé, j'ai mal ». Eh bien non, ce sont des mécanismes plus complexes que ça dans lesquels sont impliqués notre cerveau, nos pensées, nos croyances, nos émotions. C'est ce qui nous amène aussi à beaucoup d'humilité quand il s'agit de trouver les causes et donc les solutions. Avec Pierre Elie, nous avons donc parlé de tous ces mécanismes, mais aussi de la difficulté à dire si on peut courir ou pas quand on a mal, du catastrophisme et de la perception de la douleur, des sportifs professionnels et de la douleur qui ont une gestion, une vision un peu différente, de l'effet de l'adrénaline aussi sur la douleur, des courbatures et de la douleur musculaire. Est-ce que c'est normal d'avoir des courbatures après un entraînement, par exemple, de trouver les mouvements qui nous font du bien et puis parfois qui peuvent nous faire du mal aussi, de l'arthrose et de ce qui fait vraiment mal avec l'arthrose, vous allez voir, c'est peut-être un peu surprenant, et de comment bien vieillir aussi. Et vous le devinerez sans surprise, on a beaucoup parlé de l'importance du mouvement pour être en bonne santé et de l'importance du mouvement pour bien vieillir aussi. Et puis à la fin, nous parlons aussi de certains messages pas toujours justifiés sur le plan scientifique, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux comme Instagram ou sur YouTube, et qui sont partagés notamment par des grands noms du fitness qui ont écrit des livres qui ont un peu, comme on dit, pignon sur rue, mais qui ne sont pas forcément dans le vrai tout le temps et qui ont du mal à l'entendre, et ça crée des discussions sacrément animées. Et Pierre Elie fait partie de ceux qui justement essaye de décrypter un petit peu ses messages et vous allez comprendre un petit peu sa vision de pourquoi il le fait, de comment il le fait et aussi de quelques soucis, quelques discussions que ça lui amène. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Pierre-Élie.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh ben ça va très bien, et toi?
Ben écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai mal d'une part, donc je suis assez content pour aborder ce sujet qui est pour moi la douleur, qui est un vrai sujet. En plus, on s'adresse à une communauté de coureurs. Tu sais qu'il y a une... Tu connais les statistiques dans la course à pied. Je pense que tu les connais mieux que moi, comme quoi tous les coureurs finissent par se blesser. La moitié des coureurs se blessent dans l'année. Hein, donc moi, c'était sur 2023. J'ai eu ma blessure sur 2020... Je sais même plus. 2021, peut-être, tu vois, j'ai opéré du genou et tout, donc statistiquement, une année sur deux, j'ai un petit bobo, un gros truc et tout comme ça, plus d'autres soucis, mais, et je pense que c'est un sujet, en plus, qui est très vaste, qui est très large et tout, toi, t'es un vrai spécialiste, je me régale à voir, en plus, tes contenus sur Instagram et tes vidéos longues, fouillées sur YouTube, donc, vraiment, déjà, je le dis, on va te dire directement, tu vas te présenter, puis, directement, tu vas te dire où est-ce qu'on peut te suivre, ce que tu fais, etc., pour que les gens déjà là, qui écoutent, qui regardent et tout, puissent aller te suivre et voir un petit peu ce que tu fais.
Alors, je m'appelle Pierre-Élie Bernard, je suis ostéopathe depuis 12 ans, j'ai un intérêt particulier pour la prise en charge des douleurs, parce que j'ai fait diverses formations spécifiquement là-dedans, et j'ai également un intérêt particulier dans l'accompagnement des sportifs, et j'essaye d'avoir une approche basée sur les sciences, ou en tout cas evidence-based practice, comme on dit. Donc en gros, j'essaie de tenir compte des avancées de la science pour les intégrer dans ma pratique, et pas rester sur des modèles un peu désuets qu'on a pu m'apprendre à l'école. Donc les choses évoluent et c'est vachement intéressant. Donc j'essaie de vulgariser ça en plus sur YouTube à la base. J'ai commencé sur YouTube sur une chaîne qui s'appelle Les Chroniques de la douleur. Où au début, je voulais juste parler de douleur et je me suis vite rendu compte qu'en fait, si je donnais des exemples concrets de sport, par exemple, ça marchait vachement mieux. Du style, je crois que deux des premières vidéos que j'ai faites où je parlais de sport, c'était est-ce que la course à pied, ça use les genoux ? Ou alors, j'ai de l'arthrose de genoux, est-ce que je dois arrêter de courir ? Et ça, c'était des vidéos que j'ai faites et qui ont plutôt pas mal fonctionné à l'époque. Et ensuite, j'ai créé mon compte Instagram en 2022 qui s'appelle même pareil, Chronique de la douleur, sur laquelle j'essaie de poster de manière un peu plus régulière maintenant.
Alors, on ne donnera pas la réponse à la question, aux deux questions que tu as posées sur l'arthrose du genou et j'ai mal au genou, est-ce que ça fait mal au genou de courir, etc. Et les gens iront voir la vidéo, iront voir en tout cas les contenus pour avoir des idées. Moi, j'ai mon idée, personnellement, mais je sais que par exemple, hier, dans une discussion, quelqu'un m'a dit « Ouais, quand t'es en surpoids, faut pas courir, c'est mal au genou, c'est pas bon, etc. » Et puis j'ai plein de discussions, tu sais, sur les amis Fred et compagnie, tous les réseaux qu'il peut y avoir, avec des gens qui disent « Ah, t'es en surpoids, faut pas courir, attention, ça va te faire mal au genou. » Les gens autour de nous qui nous disent « Tu vas te flinguer les genoux, tu vas te faire mal, etc. Et » tout. Puis moi, je leur dis « Bon, écoute, non. » Et puis après, ils me disent « Ouais, mais c'est que t'as des bonnes chaussures qui amortissent. » Et je leur dis « Bah non, tu sais, des fois, je cours pieds nus. » Ils me disent « Mais t'as pas mal. » Je leur dis « Bah non. » Mais par contre, j'ai eu mal dans des situations où, franchement, vous pensiez pas que je pouvais avoir mal. Par exemple, en restant assis sur mon canapé. Alors, il faudrait peut-être revoir la notion de qu'est-ce que la douleur, qu'est-ce qu'on a mal, qu'est-ce qui les provoque. D'où mon intérêt de t'avoir invité. Parce que c'est un sujet, je pense que tout le monde expérimente. Mais oui. Franchement, il y a un degré de complexité dans les signaux que nous envoie notre corps qui est beaucoup plus poussé que ce que je pense qu'on a l'impression quand on est extérieur au domaine, en fait.
Ouais, tout à fait. C'est marrant ce que tu dis. Tu dis, ça arrive à tout le monde d'avoir mal. C'est une expérience qui est normale, entre guillemets, dans le sens où ça fait partie des choses normales de la vie. Et du coup, vu que ça arrive à tout le monde, je pense que tout le monde pense comprendre comment ça fonctionne à peu près, ou en tout cas, tout le monde a son avis. Je pense que c'est un peu comme l'alimentation dans un autre domaine où tout le monde mange, donc tout le monde se fait des idées sur comment ça fonctionne. Et sauf que entre l'expérience qu'on a personnellement et les vraies connaissances qu'on arrive à développer à travers la science, des fois les connaissances qu'on développe à travers la science, elles permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Et autant il y a des fois où il y a des expériences de douleur qu'on comprend, du style je me tords la cheville, j'ai mal, on se dit bah oui c'est normal, je me suis tordu la cheville. Autant des fois il y a des gens ils disent je comprends pas, j'ai rien fait et ma cheville elle a gonflé et maintenant j'ai mal et pourtant j'ai rien fait de particulier. Et là typiquement c'est un peu comme quand tu dis je me suis fait mal en étant sur mon canapé mais je comprends pas. Et c'est peut-être parce que la douleur c'est un peu plus complexe que ce que beaucoup de gens s'imaginent.
Et c'est là où en plus ce qui est intéressant c'est aussi de se demander ce que c'est la douleur vraiment, parce que on a dit j'ai mal. Mais j'ai mal. Mais il y a des degrés. Des fois, j'ai mal un peu. Des fois, j'ai mal beaucoup. Des fois, j'ai très, très mal. Des fois, et l'autre jour, j'ai une question, c'est est-ce que je peux courir quand j'ai mal? Oui, mais t'as mal comment? D'où vient la douleur? Enfin, en plus, moi, je suis pas médecin, je suis pas kiné, j'ai pas de radio, tu vois, je suis pas formé sur le truc et tout. Donc, je ne peux pas répondre à la question. Mais il y a des douleurs quand même, parce que tout ne fait pas mal de la même manière.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une expérience qui est complexe et qui est diverse, la douleur. Tu vois, typiquement, si moi, ça m'arrive aussi des gens qui m'envoient des messages en me demandant des situations un peu comme ça, j'ai mal, est-ce que je dois continuer à m'entraîner ? C'est très compliqué de répondre parce qu'en fait, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, en fait. Ça dépend de à quel point ça fait mal, ça dépend de qu'est-ce qui fait mal, ça dépend de depuis combien de temps, comment c'est apparu, est-ce qu'il y a un contexte de traumatisme à la base ou pas ? Bref, il y a plein de choses qui font que c'est très compliqué de donner des conseils sans avoir les informations précises de la personne. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, si tu regardes mon contenu, il y a plein de gens qui vont parfois me critiquer en me disant « Ouais, mais tu proposes pas forcément de solutions concrètes, tu proposes pas d'exercices, tu proposes pas de machin. » Bah parce qu'en fait, c'est vachement compliqué, parce qu'un truc qui sera super adapté pour certains, ça va en aggraver d'autres, en fait. Et c'est pour ça que, pour l'instant, je vais pas dire « T'as mal au dos, fais ça », Parce que, en fait, ça dépend de plein de trucs. Alors, qu'est-ce que c'est la douleur? C'est la question que tu posais. C'est une bonne question. Comment tu définirais la douleur, toi?
Ah, moi, c'est, j'ai une définition très particulière qui est de dire, il y a un moment donné, il y a un truc dans mon cerveau qui appuie sur un bouton qui dit, là, il faut t'arrêter. Et c'est le truc, le signal, de dire, là, il faut vraiment que t'arrêtes de faire quelque chose, mais je sais pas quoi, tu vois? C'est ça le truc, dans mes expériences que j'ai appris, c'est que les plus grosses douleurs que j'ai eues, et j'ai eu hernie sciatique, j'ai eu fissure du ménisque, tu vois, des trucs comme ça. Il y a des moments, je savais que j'avais mal, mais j'étais incapable de dire pourquoi j'avais vraiment mal et qu'est-ce qui provoquait vraiment cette douleur-là, réellement. Et d'ailleurs, les personnels de santé n'étaient pas tous du même avis sur d'ailleurs ce qui me faisait mal aussi, eux-mêmes. Mmh. Et même, j'ai eu des kinés qui m'ont dit « je ne sais pas vraiment ce que je peux faire ». Et un autre kiné qui m'a dit « la radio montre quelque chose ». Mais moi, je pense que c'est là que vous devez faire quelque chose. Et j'ai dit, écoutez, c'est vous le spécialiste, dis-moi ce que je dois faire. Et d'ailleurs, il m'a donné des exercices qui ont très bien marché. Comme quoi, sur le coup, il avait raison. Mais est-ce qu'il avait raison parce qu'il m'a donné des exercices ou parce qu'il avait vu ce qu'il fallait? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Alors, je ne peux pas te dire non plus. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement, il y a deux notions, je pense, qui sont intéressantes dans ta définition de la douleur. C'est, tu parles du cerveau. Et tu parles du fait que c'est un truc qui te dit qu'il faut arrêter quelque chose. Et ça, c'est vrai, en fait. Y a ces deux éléments qui sont importants. C'est que la douleur, c'est une production du cerveau. Alors, pas que du cerveau, mais c'est une production du système nerveux. Et effectivement, c'est un signal d'alerte ou d'alarme pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut qu'on change quelque chose. La définition officielle qu'on accepte habituellement, c'est une définition de l'IASP, l'Association internationale pour l'étude de la douleur, qui dit que la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est associée à des lésions tissulaires qui sont réelles ou potentielles, ou bien qui sont décrites en des termes évoquant de telles lésions. Alors, c'est une définition à rallonge, mais on va expliquer. Donc, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle, donc c'est pas juste sensoriel, c'est-à-dire que c'est pas juste ça pique, ça tire, ça brûle, machin. Il y a ça, mais il y a aussi une composante émotionnelle de « je comprends pas, ça me fait peur, ça me stresse, etc. » Donc c'est une expérience sensorielle et émotionnelle qui est désagréable. Ça nous dit un truc aussi, c'est que c'est forcément conscient. La douleur, c'est forcément conscient. On ne peut pas avoir mal et ne pas savoir. Oui. Si on a mal, on en est conscient. Et si on n'a pas conscient d'avoir mal, c'est qu'on n'a pas mal. Voilà. Cette expérience, elle est associée à des lésions tissulaires, donc quelque chose d'abîmé, qui sont réelles ou potentielles, et ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que des fois on peut avoir mal, pas forcément parce qu'il y a une lésion, mais parce que notre corps pense que peut-être il y a une lésion, ou en tout cas notre système nerveux a perçu que peut-être il y aurait une lésion, ou, et c'est la dernière partie qui est intéressante aussi, c'est ou bien qui est décrite en des termes qui évoquent une telle lésion, c'est-à-dire que si quelqu'un nous dit j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est déchiré, même si en fait il n'y a rien qui est déchiré, la douleur elle reste réelle. Et ça c'est un truc qui est important, c'est que la douleur elle est réelle, quelle qu'en soit la cause. C'est-à-dire que même si au niveau des tissus on ne retrouve rien, même si on fait des radios qu'on ne retrouve rien, etc., et que la personne elle dit qu'elle a mal, elle a mal. L'expérience reste réelle. Et c'est l'un des trucs qui est aussi intéressant, c'est que du coup, ça pose la question de qu'est-ce qui provoque la douleur. Et c'est là où en fait il y a eu un gros changement dans la compréhension du truc ces dernières décennies, c'est que pendant très longtemps, on pensait que la douleur, c'était un signe de lésion tissulaire. On disait, t'as mal parce que tu t'es abîmé quelque chose, t'as mal parce que t'es en train de t'user quelque chose, etc. Sauf qu'on a plein d'exemples qui montrent que c'est pas le cas. On peut citer par exemple une étude qui est très très connue dans les milieux de la douleur. C'est une étude qui a été publiée dans un journal scientifique anglais, il me semble, 1993 de mémoire, un cas clinique d'un ouvrier qui était sur un chantier et qui a sauté d'une échelle et qui a atterri sur un clou. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette histoire-là.
J'ai entendu cette histoire,
ouais. Ouais, elle est un peu connue. Ouais. Donc en gros, l'ouvrier il saute d'une échelle et il atterrit sur un clou de 15 cm qui traverse sa botte. Le monsieur a très très mal, vraiment très très mal. Donc du coup, on l'emmène aux urgences, il a horriblement mal, on est obligé de le sédater avec des antidouleurs qui sont ultra puissants, genre de trucs morphiniques, etc., pour pouvoir lui découper la botte, parce que sans lui donner ses antidouleurs, le moindre mouvement de la botte et du clou, ça lui faisait horriblement mal. Et en fait, ils ont découpé la botte, une fois qu'ils l'avaient sédatée, et ils se sont rendus compte que le clou était passé entre deux orteils et n'avait touché aucun tissu. Donc, on est dans un exemple de douleur très intense, alors qu'il n'y avait pas de lésion tissulaire. Et on peut se dire, ouais, c'est quand même abusé. Mais en fait, il y a plein d'autres exemples beaucoup plus communs. Hein. Quand t'as mal à la tête, en général, t'as rien qui est abîmé, quoi. T'es pas en train de te dire, je fais un AVC. Oui, t'as mal à la tête. Tu te dis, bah oui, il y a un contexte. Peut-être que je suis crevé. Peut-être que j'ai fait des choses inhabituelles. Peut-être que je suis stressé. Et ça peut jouer sur les douleurs de tête. Et ben, en fait, ça peut être le cas aussi pour n'importe quelle autre douleur. Le contexte, l'état dans lequel on est, en général, peut avoir une influence sur n'importe quelle douleur.
C'est dingue, ces histoires-là, quand même. Hein. Parce que enfin, l'histoire du clou, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent, mais finalement, alors, c'est quoi qui provoque cette douleur à ce moment-là? C'est la peur d'avoir mal c'est quoi, en fait?
Alors, il y a... Il y a plusieurs facteurs. De base, alors si on rentre un tout petit peu dans de la neurophysiologie, je sais pas quel est ton background. Toi, t'as un diplôme d'éducateur sportif ou pas?
Non, moi, tu sais, je viens de la communication, du marketing, des gens qui vendent des trucs. Ouais,
d'accord.
Tu sais, moi, je suis un mec qui faisait 30 kilos trop il y a quelques années, qui un jour a commencé à courir et qui à un moment donné a découvert qu'en fait ses douleurs se déplaçaient. Et puis qui pouvait se créer des nouvelles douleurs sans trop savoir comment, en restant assis sur une chaise. Alors, il y a un moment donné, tu sais, voilà. Mais par contre, je m'intéresse beaucoup au truc, tu vois, et m'intéressant en neurosciences et compagnie, au bout d'un moment, je me dis, il y a un tel fonctionnement à découvrir que je suis toujours ouï de toutes les explications.
D'accord. Alors, je te posais la question parce que c'est vrai qu'il y a, en général, quand on est ou bien professionnel de santé ou bien professionnel du sport, on apprend des bases quand même sur le fonctionnement de la douleur. Et moi, ce qu'on apprend à la base, c'est que la douleur, c'est en rapport avec ce qu'on appelle la nociception. Je crois que c'est un terme que tu as déjà entendu parler, la nociception.
Chez toi, oui.
Chez moi. En fait, on a des récepteurs un peu partout dans le corps, dans la peau, dans les ligaments, dans les muscles, au niveau des articulations. C'est des nocicepteurs. C'est des récepteurs que longtemps on qualifiait de récepteurs à la douleur. On s'est rendu compte maintenant que ce ne sont pas des récepteurs à la douleur. Mais pendant longtemps, on les décrivait comme ça. On disait que c'est des récepteurs à la douleur et s'il y a une lésion, eh ben en fait, ils vont envoyer un message de douleur qui va arriver au cerveau. On s'est rendu compte que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on pouvait avoir de la nociception sans douleur et on pouvait avoir de la douleur sans nociception. Et pour plein de raisons, parce que en fait, la nociception, au final, ce n'est pas un message de douleur, c'est plutôt un message de danger. C'est en gros des récepteurs qui vont dire « Ok, il y a quelque chose d'un peu inhabituel à ce niveau-là, donc je vais envoyer un message pour dire « Attention, il y a quelque chose d'un peu bizarre. » Et ensuite, il va y avoir des modulations au niveau de la moelle épinière, au niveau du cerveau, qui vont ou bien augmenter le volume ou bien réduire le volume en fonction de plein de facteurs. Et enfin, quand ça va arriver au niveau des centres supérieurs, au niveau du cerveau, il va y avoir une intégration de ces informations en fonction de plein de choses. Et c'est au final le cerveau qui va dire oui ou non, est-ce qu'on a besoin de protéger cette zone-là? Et si on a besoin de la protéger, eh ben on va produire de la douleur. Et tous les facteurs qui peuvent venir moduler un petit peu ce signal de nociception, il y en a plein, vraiment plein. Et notamment, il y a des facteurs qui vont être liés aux attentes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si on pense que quelque chose va nous faire mal, ben il y a plus de chances que ça nous fasse mal. Un exemple d'une étude que j'ai partagée en story il y a quelques jours. En 2013, il y a des chercheurs qui ont fait une étude chez des gens supposés normaux. Et je dis supposés normaux parce que quand on est volontaire pour participer à une étude sur la douleur, on peut se demander si on est tout à fait normal. voilà. Donc, ils ont pris des gens qui étaient supposés normaux et en fait, ils les ont répartis en deux groupes. Et il y a un groupe à qui ils ont mis une sorte de crème sur l'avant-bras. Une sorte de crème neutre, une sorte de crème hydratante qui fait rien de particulier. Et ils ont dit aux gens, on vous met une crème qui est neutre, qui fait rien de particulier, et ensuite on va vous mettre une petite thermode, donc un truc qui chauffe à 41 degrés, je crois, ou 44, je sais plus. Un truc qui est pas censé faire mal normalement, qui est censé chauffer mais sans faire mal. Et donc on dit aux gens, on va vous mettre un truc et vous nous dites si ça vous fait mal, à combien ça vous fait mal de 0 à 10. Donc ça c'est un groupe à qui ils ont fait ça. L'autre groupe, ils ont mis une crème dans laquelle il y avait de la capsaïcine, donc c'est un truc à base de piment. Et ils ont dit aux gens, on vous met une crème, il y a un peu de piment dedans, donc il est possible, ça irrite un petit peu, et après on va vous mettre une thermode, et vous nous dites si ça vous fait mal et à quel point ça vous fait mal. Et en fait, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, le groupe à qui on a mis la crème où il y avait le piment, bah, ils ont eu plus mal que les gens qui avaient la crème normale. Et ça se voit même, ils avaient fait passer des IRM fonctionnels au niveau de la moelle, ils voyaient qu'il y avait des activations de certains neurones qui étaient beaucoup plus importantes au niveau de la moelle chez les gens qui avaient la crème au piment. Sauf que la bonne blague, c'est qu'en réalité, ils n'avaient pas donné de crème au piment au groupe à qui ils avaient dit qu'ils avaient mis de la crème au piment. Ils leur avaient donné une crème qui était la même que l'autre. Donc, une crème qui ne faisait rien. Donc, la seule différence qu'il y avait entre les deux groupes, ce n'était pas la crème, c'était les attentes. C'est-à-dire qu'on avait dit aux gens, attention, ça va vous faire mal. Et effectivement, les gens ont eu mal. Parce qu'il y a eu, en fait, une anticipation qui disait, OK, on est en train de me faire un truc qui peut-être peut m'irriter. Et donc, du coup, ça a été perçu comme une menace. Donc, il y a eu des douleurs. C'est un exemple, mais il y en a plein des exemples comme ça. Et en fait, dans le cas de l'ouvrier avec sa botte, alors peut-être qu'il y avait un petit peu de nociception au niveau du pied, il est possible que ça ait un petit peu irrité les orteils, etc., mais pas suffisamment pour que ça puisse provoquer des douleurs insoutenables comme ce qu'il a eu. Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a vu, il voit le clou qui traverse sa botte, il voit la réaction de tous ses collègues autour qui sont en mode « Oh mon Dieu !» Dans sa tête, il se passe plein de trucs en mode « Qu'est-ce qui se passe ? Si le clou, il est rouillé, ça se trouve, je vais choper le tétanos, ça se trouve, je vais me faire amputer, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir bosser, je ne vais pas pouvoir ramener de salaire, donc je vais me retrouver à la rue. » Enfin bref, il y a tout qui tourne dans la tête. Et tout ça, en fait, ça fait qu'il y a une anticipation du cerveau qui dit « Attention, c'est dangereux, là, il faut soigner ça. » Et donc, je vais te faire ressentir très fort de la douleur pour que tu ailles très vite à l'hôpital et qu'on soigne ça. Même si en réalité, à ce moment-là, il n'y avait pas de lésion. Donc, il vaut mieux protéger la zone au cas où, même si en fait, il n'y a rien.
Et c'est dingue, cette histoire et cette perception. Mais tu vois, ça me rappelle un peu... alors, moi, je n'ai pas de douleur, mais... Enfin, quoi que... Tu sais, après une blessure, par exemple, quand je me suis fait opérer du genou, des choses comme ça, tu as toujours des appréhensions. Tu vois, des trucs comme ça, etc. Sur la rééducation, on dit ça va bien, il faut faire ça, tu vois, ou sur mon entorse. Et je le sens, tu vois, j'ai fait une entorse en novembre, tu vois, dans les descentes. Avant, j'allais plein badin, tu vois, dans mon truc. Tu sais, des fois, et je me dis, putain, alors, c'est pas des douleurs que je crée. Ça crée pas de douleur. Mais je me dis, chez certains, peut-être que l'appréhension pourrait créer, finalement, une poursuite de la douleur, alors qu'il pourrait être. Techniquement, je sais pas si c'est le bon terme, techniquement guéri, soigné, réparé et tout, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, dans le cas de l'entorse, il y a une particularité, c'est qu'il y a une question de stabilité aussi de l'articulation, de récupération au niveau de la proprioception. C'est-à-dire que quand on s'abîme un ligament, la proprioception donc, est un petit peu diminuée, c'est-à-dire la capacité qu'on a à ressentir la position dans laquelle est notre articulation. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, après une entorse, c'est bien de faire de la kiné, même avec une entorse qui n'est pas méchante. C'est intéressant quand même de faire de la kiné pour retravailler ce genre de choses. Donc il peut y avoir cet aspect-là qui peut faire qu'il y a un petit manque de stabilité et qui peut faire que du coup, on a cette appréhension. Mais si la stabilité a bien été récupérée, en tout cas quand on teste que c'est bien récupéré, des fois quand on se remet en situation, comme là quand on court, il peut y avoir effectivement une appréhension. Alors, j'ai pas vu de données spécifiquement au niveau scientifique sur ce cas-là, l'appréhension à la course après une entorse, mais je sais que par exemple dans le mal de dos, qui est quand même un sujet que je maîtrise un peu plus, dans le mal de dos, on sait que même quand il y a eu une blessure, même quand il y a eu une lésion tissulaire, passé quelques mois, c'est guéri. C'est-à-dire que les tissus ont eu le temps de cicatriser. Et donc, s'il reste des douleurs, alors là, tu parlais pas de douleurs, mais tu disais que chez certaines personnes, ça peut arriver, effectivement. S'il reste des douleurs passées plusieurs mois, on sait que ça n'est plus franchement lié à l'état des tissus. C'est plus lié au fait que le système nerveux est un peu hyper attentif dans la zone. On dit qu'il est plus sensible, en fait. Le système nerveux devient plus sensibilisé dans la zone parce qu'il protège encore un peu la zone. Et donc, très souvent, quand il y a des douleurs qui persistent au-delà de plusieurs mois, c'est souvent une question de sensibilité du système nerveux plus que de l'état des tissus. Et effectivement, l'appréhension peut clairement entretenir cette sensibilisation. Et ça, on a plein d'exemples sur le dos, par exemple, des gens qui n'osent plus bouger, qui n'osent plus faire certains mouvements parce que, ou bien ils se sont fait mal dans un mouvement, comme se pencher en avant, par exemple, ou porter avec une charge avec le dos un peu arrondi, ou bien parce qu'ils ne se sont jamais fait mal dans ce mouvement-là, mais on leur a tellement répété que c'était dangereux qu'en fait, ils ne le font pas. Et en fait, il y a plein de gens qui sont parfois entretenus dans une douleur parce qu'en fait, ils ne s'autorisent pas à bouger de manière relâchée et de manière variée, en fait. Et en fait, c'est justement ce qu'on essaie de faire en tant qu'ostéo, d'autres en tant que kiné, c'est qu'on va essayer de redonner un peu confiance dans les capacités du corps et dans le fait de bouger de plein de manières et du fait que c'est safe, en fait.
Ouais. Là, tu avais parlé, il n'y a pas longtemps, un cas. Je ne sais pas si on pourra retrouver, si tu mets le lien, si tu l'as mis en story ou je ne sais pas où, comment tu l'as mis, je ne me rappelle plus. sur la personne qui était totalement crispée, qui n'osait pas faire des mouvements, qui se créait des douleurs par la peur de ne pas faire certains mouvements et qu'il faut ramener dans certains mouvements. J'ai trouvé ça passionnant. Je te le dis parce que j'ai trouvé ça que c'était vraiment incroyable. Et tu vois, moi, tu parlais de problèmes de dos. Il y a 2 ans de ça, ouais, 2 ans, je suis en train de chercher, mais j'étais plié en deux. Mais quand je dis plié en deux, c'est-à-dire que je n'arrivais même pas à me redresser, j'étais tordu, j'ai le dos qui était. Des fois, je mets des photos sur Instagram et c'était en mars, tu vois. J'étais allé courir en mars en plein soleil et j'ai fait une photo, on avait tordu et j'étais plié en deux. Et donc, on m'avait vu, tu vois, du style de l'arthrose. Bah, tu sais, moi j'ai 47 ans, on me dit ouais, t'as de l'arthrose, c'est normal. Mais est-ce que c'est ça qui fait mal? On n'en sait rien. Tassement lombaire. Ouais, c'est normal. Je bouge un peu, ça disparaît et tout. Et donc, j'avais fait de la kiné, j'ai fait des radios, on m'a vu une hernie et tout. Puis, je me suis mis à courir plus, à travailler debout, à marcher et tout. Et là, tout disparaît. Et puis, jusqu'à un moment donné, où dans une préparation de course, tu sais, il y a la période d'affûtage, là, 15 jours, tu sais, où on ne fait pas grand-chose. Et bien, à la fin, au bout de 10 jours, bam, j'avais à nouveau mal. Et ma tête, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, oula, là, il y a un signe, Bertrand. Faut que tu bouges plus. Alors que, objectivement, je ne sais pas. Je ne peux pas dire s'il y a de la douleur ou pas. Mais tu sais, tout à l'heure, je te disais, c'est une alerte. C'est-à-dire, tu étais bien dans une situation qui était pas mal, là, comme ça, tu n'as plus mal. Tu arrêtes de bouger, tu es dans ton canapé, parce qu'il y a des bonnes raisons. Tu as mal à nouveau, faut que tu rebouges. Et j'en ai discuté avec l'ami Armano. Et avant mon 24 heures, je lui ai dit, écoute, je crois qu'il va falloir que je bouge plus. Il m'a dit, c'est peut-être ton équilibre. Mais on est dans ces phénomènes-là, en fait.
Oui, enfin, de manière générale, en général, bouger va aider, ça c'est clair, à la fois en prévention et à la fois en traitement, hein, quand on a mal au dos. Dans l'immense majorité des cas, vaut mieux continuer à bouger. Et même quand il y a une petite lésion quelque part, et au niveau du dos, c'est rare qu'il y ait une lésion, hein. Quand il y a une lésion au niveau du dos, il faut vraiment y aller fort, mais même quand il y a une lésion, souvent, vaut mieux rester actif dans la mesure de ce qui est possible. Là, la particularité, c'est que c'était pas à cause de la douleur que tu avais arrêté, c'était parce que tu étais dans une période où le volume d'entraînement devait diminuer. Les variations de volume d'entraînement, quand on parle de sport, c'est probablement un des facteurs principaux de blessure. Je le mets entre gros guillemets parce que le terme blessure, je trouve, dans le sport est parfois utilisé un peu à tort et à travers. Parce que souvent on dit blessure pour parler de n'importe quelle douleur, alors que dans la langue française, une blessure, c'est une lésion tissulaire. Donc il y a quand même une confusion qui est faite entre je me suis fait mal et je me suis blessé. Donc voilà, on va dire de douleur. L'apparition de douleur, clairement, peut être lié au fait qu'il y ait des grosses variations de volume d'entraînement. Et donc, si tu es dans une période où tu as un volume d'entraînement qui est beaucoup plus bas, même si c'est pertinent dans le cadre de ta préparation, effectivement, ça peut être intéressant de compenser en gardant de la mobilité, en fait, sans forcément aller courir, mais en faisant d'autres trucs qui te font bouger ou qui te font faire un peu d'efforts un peu différents. Mais ça peut être intéressant carrément de compenser en bougeant un petit peu plus, je pense.
Ouais, mais tu vois, j'ai un autre cas, un truc. Le premier truc qui m'a mis l'alerte, et ça, c'est quand même un truc qui est incroyable. Quand je préparais mon premier marathon, donc c'était en 2018, c'est comme ça qu'est né le podcast. Et bah, tous ceux qui ont écouté les premiers épisodes du podcast savent que j'ai pas pu courir parce que j'avais, alors ce qu'on va appeler une périostite, mais qui est pas une périostite, c'était plutôt une inflammation du releveur, des releveurs et tout, parce que ça a pas atteint dans les profondeurs, quoi, hein, vraiment. Et mais le truc, c'est qu'on a essayé de le soigner avec le kiné, tu vois, il y a eu des massages, c'est tout un tas de trucs. Et donc j'ai abandonné. C'était 15 jours avant la course, j'ai abandonné. Et j'avais plein de problèmes de préparation sur, j'avais peur. Comment on va faire pour amener, tu sais, ma fille avait même pas 1 an, comment on va faire pour le logement, c'était compliqué, il y a toute la logistique, qu'est-ce qui va se passer si je suis trop fatigué pour rentrer, enfin tu vois, tout un tas de questions qui étaient dans la tête, tu vois, qui tournaient. Donc j'ai donné mon dossard à quelqu'un et donc je lui donne, comme ça ça passera le jour de la course, hein, alors que j'avais rien fait et tout. Donc je lui donne 3 jours avant la course. À partir de ce moment-là, ma douleur diminue. Ça faisait 15 jours que je ne marchais plus parce que j'avais mal, l'inflammation et tout. Je lui donne le dossard, ça commence à baisser. Le lundi après le marathon, j'ai pas couru, j'ai plus rien. Et là, je regarde mes jambes, je dis, mais oh, vous m'avez fait quoi? Et à ce jour-là, je me suis dit, mentalement, j'étais pas prêt. Et le frein, tu vois, c'est comme si j'avais un frein à main. Un jour, j'ai eu un kinésiologue qui m'a dit, c'est comme si dans votre corps, vous aviez un frein à main. Tu vois, il m'a parlé de ma sciatique, il m'a dit, vous avez un gros frein à main, mais le frein à main, il est mental. Et ce jour-là, tu sais, sur le marathon, je me suis dit, j'ai eu la trouille, j'ai fait un refus d'obstacle, je sais pas si j'étais un cheval, tu sais, je vois la barrière, je dis, je m'arrête.
Bah, c'est sûr que ça peut jouer. Hein. Alors, c'est difficile aussi à dire comme ça, quelle est la part de psychologique ou liée à l'appréhension qui est bien compréhensible, ou quelle est la part liée juste bah, au fait que bah, préparer un marathon, c'est pas anodin quand même. Hein. Ça reste quand même un truc qui est intense, sans même parler de l'épreuve, mais rien que la préparation, ça veut dire un gros volume d'entraînement, etc. Et en fait, en fonction de tout ça, même s'il n'y avait pas eu d'appréhension ou de crainte, ça se trouve, tu aurais pu déclencher une périostite ou des douleurs juste parce que accumulation du volume d'entraînement, peut-être récupération un peu moins bonne avec l'excitation du fait du truc qui arrive, on dort un peu moins bien, etc. Tout ça, c'est des facteurs purement biologiques, mécaniques ou chimiques qui peuvent faire qu'il y a une irritation qui se crée au niveau des tissus. Après, c'est clair que le fait d'avoir cette appréhension en plus et tout le stress qu'il y a autour, bah, je parlais tout à l'heure des différentes modulations qu'il peut y avoir au niveau de la moelle ou du cerveau, bah, ça, clairement, le fait d'appréhender tout ce qu'il y a autour, ça va augmenter le volume de la nociception et ça peut faire que la douleur est vachement plus importante. Et ça peut expliquer qu'une fois que tu te dis bah, c'est bon, de toute façon je le courrai plus, et ben en fait le danger est moins présent parce que de toute façon ton corps il sait que c'est bon. T'as compris le message, tu vas pas faire ton marathon, donc on peut réduire un petit peu le volume de la douleur. Ça veut pas dire qu'il y avait pas d'inflammation, ça veut pas dire que c'était que dans ta tête, ça veut juste dire que effectivement, vu que le danger était un peu éloigné, et ben il y avait moins besoin que l'alarme elle sonne si fort, quoi.
Ouais, parce que la blessure y était en plus, parce que tu vois la kiné, elle tapait sur les trucs, elle me dit ça fait un drôle de bruit, on voit que c'est inflammé, on voit qu'il y a un truc, elle l'avait vu, tu vois. Même après un ostéo, quand on a fait les analyses et tout, mais j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au truc, tu vois. Après j'ai lu le livre de John Sarnow sur votre meilleur antidouleur, c'est le cerveau, tu vois, les trucs comme ça. Et notamment quand j'ai mes douleurs de hernie, la sciatique, j'arrivais pas à comprendre ce truc-là. Je me disais mais d'où ça vient et tout. Et il y a un truc qui m'avait questionné, c'était en fait, il parlait de la colère intérieure et tout, tu vois, qu'on pouvait avoir. Je m'étais mis à écrire, tu sais, ce qui me mettait en colère dans des choses et tout comme ça. Et ça me faisait du bien. Mais bizarrement, ça me faisait du bien physiquement. Tu vois, alors moralement, oui, le sortir et tout, tu vois. Mais physiquement, j'ai trouvé, ça soulageait. Alors de là à dire que la douleur a disparu, franchement, non. Voilà le truc, non. Et par contre, tu vois, après, j'ai fait de la kiné type McKenzie, tu vois, où ils sont vraiment spécialisés et tout. Et le truc était particulier, c'est que le gars, il me dit, tout ce qu'ils ont vu à la radio, j'y crois pas. Il me dit, pour moi, c'est pas ça qui vous fait mal. Il me dit, c'est le psoas, il veut faire ça et tout. Et tu sais, j'en sortais du kiné, j'avais mal, mais j'avais encore plus mal qu'avant. Et par contre, en quelques jours, tu sais, ça baissait. Mais il m'avait dit un truc, il m'a dit, par contre, faites bien vos exercices. Si vous ne faites pas vos exercices, votre cerveau ne va pas comprendre que vous voulez vous soigner. Ou je ne sais pas comment il m'a dit ça. Un truc dans le genre là, tu vois. Et je m'étais dit, là, il y a un truc. Il m'a dit, c'est des neurosciences. Il faut le répéter le matin, midi, soir. Alors, je ne sais pas si c'était pour me faire peur, tu sais, pour m'inciter ou pas. Ou si vraiment, il y avait un espèce, tu sais, un truc de mouvement, d'une manière d'indiquer à mon corps, de dire, il faut faire ça, tu vois. Il y a des creusés le dos, il y avait un peu le cobra, tu vois, des trucs comme ça. Pour que, justement, je me force à y aller. Et tu vois, que j'évite pas certains mouvements et que lui, derrière, il me dise, bah voilà, vous pouvez y aller en sécurité, mais le fait de le répéter, ça vous aide aussi. Alors, j'ai mis plein de trucs dans ma question, mais tu comprends que moi, je me dis, mais comment finalement cette douleur, elle est partie? Parce que j'ai même pas contrôlé voir si l'hernie était encore là ou pas, tu vois. C'est ça le truc. Je sais juste que j'ai plus mal.
Ouais. Et en fait, ça vaudrait pas forcément le coup de regarder si ta hernie, elle est toujours là. Parce que, comme le dit ton kiné, en fait, c'est tout à fait possible que ce soit pas ça qui te fasse mal. Parce que, comme tu l'as dit un peu plus tôt dans le podcast, en fait, si on fait passer des imageries à des gens de 40 et quelques, il y en a une bonne partie chez qui on va retrouver de l'arthrose, il y en a une bonne partie chez qui on va retrouver des hernies, il y en a une bonne partie chez qui on va retrouver des trucs chelous à l'imagerie, et ce, même s'ils ont pas de douleur. Et ça, ça fait partie des trucs, en fait, qui ont fait qu'on a changé un petit peu le modèle de compréhension de la douleur. Là où, à l'époque, on se disait, la douleur, c'est le signe d'une lésion ou d'une anomalie au niveau anatomique. On sait qu'en fait, ces trucs-là sont très mal corrélés, en fait. Le fait de trouver des trucs à l'imagerie et le fait d'avoir des douleurs, c'est très mal corrélé. Sauf quelques petits cas bien spécifiques. Par exemple, s'il y a la personne qui a une sciatique paralysante, la personne elle a mal dans la jambe, elle perd de la force, elle a des troubles au niveau des urinaires, et que à l'imagerie, on voit qu'il y a une hernie qui vient comprimer les racines, il y a de fortes chances pour que ce soit lié. Ou alors si la personne elle est tombée d'un étage et qu'elle a une fracture, il y a de fortes chances que ce soit lié. Voilà, dans des cas comme ça. Mais si on parle de douleur où il n'y a pas de notion de traumatisme, où il n'y a pas de fièvre, où il n'y a pas de perte de fonction, de force, etc., où il n'y a pas de signe de cancer ou quoi que ce soit, et tout ça, c'est assez rare, hein, au final. Hein. L'immense majorité des cas, il n'y a pas ça. Donc si on n'a pas ça, et ben en fait, maintenant, on en est à un point où on dit, ça ne sert à rien de faire passer une radio, en fait, ou ça ne sert à rien de faire passer une IRM, parce que, en fait, ça va pas. Déjà, ce qu'on va trouver va probablement pas nous donner d'indications pertinentes. C'est-à-dire qu'on va trouver des trucs qui sont juste normaux, parce qu'en fait, on trouve ça chez à peu près tout le monde, qui sont probablement pas liés à la douleur. Et surtout, ça va pas changer le traitement qu'on va proposer derrière, en fait. Parce que on sait que globalement, faire des exercices, ça va faire du bien. Le fait de rebouger, ça va faire du bien. Le fait de rassurer les gens, ça va leur faire du bien. Et c'est l'une des raisons pour laquelle maintenant, ça fait partie des recommandations officielles. Hein. Quand il n'y a pas de signes de traumatisme, quand il n'y a pas de fièvre, etc., on dit ne faites pas passer d'imagerie. Parce que non seulement ça va coûter de l'argent pour rien, mais surtout, ça peut faire flipper les gens. Le nombre de personnes que je vois arriver en consultation en me disant « Regardez, sur mon truc d'imagerie, il y a écrit que j'ai de l'arthrose, que j'ai une hernie, machin. » Si en plus, derrière, il y a un médecin qui en a rajouté une couche en disant « Oh là là, vous avez la colonne de quelqu'un de 80 ans, madame. » Voilà. Eh ben, c'est parfait. On augmente à quel point les gens flippent, en fait. Les gens flippent pour un truc qui, en fait, ça se trouve, n'a rien à voir avec leur douleur. Donc, dans ton cas, est-ce que c'était la hernie qui faisait mal? Peut-être. Peut-être pas. Alors ça, normalement, il y a des tests cliniques qu'on peut faire en consultation qui peuvent nous donner une indication si oui ou non la douleur a l'air de venir du disque. Et souvent, c'est pas ça qui fait mal. Et effectivement, pourquoi ça a soulagé? Le kiné, il t'a proposé des exercices que tu as réussi à faire régulièrement, qui t'ont permis de bouger, qui t'ont permis de faire du bien. Le mécanisme qu'il y a derrière, c'est difficile à dire. En fait, j'en ai reparlé avec un kiné, un collègue kiné, qui avait fait un podcast spécifiquement sur la méthode McKenzie, qui me disait que on sait que la méthode McKenzie, c'est un truc qui est plutôt efficace pour soulager les douleurs. Quand on compare ça à d'autres types de programmes d'exercice, il n'y a pas de supériorité de McKenzie par rapport à d'autres approches. L'idée de McKenzie, c'est qu'ils vont, d'après ce que j'en ai compris, hein, j'ai pas été formé à McKenzie parce qu'il faut être kiné pour être formé à McKenzie et je suis pas kiné. D'après ce que j'en ai compris, c'est qu'ils vont avoir tendance à diviser les patients en différents groupes en fonction de quel mouvement les soulage et quel mouvement les aggrave la douleur. Et en fait, l'idée qu'il y a un peu derrière, c'est que quand il y a un truc au niveau du disque, et ben en faisant un mouvement répété dans un sens en particulier, on va aider le disque à revenir à sa place ou à re-rentrer. Ça, on n'est pas franchement sûr que ce soit comme ça que ça se passe. On n'est pas franchement sûr que ce soit ça qui se passe. Et comme tu dis, si tu refais passer une imagerie, il y a des chances pour que ou bien la hernie soit toujours là et qu'elle te pose problème, ou bien qu'elle soit plus là et qu'elle ait juste guéri spontanément, parce qu'en fait, les deux tiers des hernies, elles guérissent spontanément. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Si on fait passer une imagerie à quelqu'un qui a une hernie et qu'on lui fait repasser 5 ans plus tard, ben dans les deux tiers des cas, il n'y a plus de hernie ou alors elle a résorbé en bonne partie, quoi. Voilà. Donc c'est difficile à dire pourquoi ça va mieux. En tout cas, les exercices, en général, ça fait du bien. Tout ce qu'il faut, c'est trouver des exercices qui correspondent à ce que la personne a à ce moment-là. Et des fois, le fait de répéter des mouvements qui ont tendance à qui peuvent soulager, bah, ça peut faire en sorte que les douleurs, elles diminuent le temps que le truc, il passe tout seul aussi, hein, des fois. Des fois, on fait juste ça. Hein. Des fois, on diminue les symptômes le temps que la nature fasse son boulot.
Ouais, mais il faut quand même faire quelque chose au patient, parce que sinon, il dit, t'as servi à rien, quoi. Tu dis, faut attendre. C'est comme le médecin, tu pars du médecin sans médicament. Il dit, attends, le gars, il tire à quoi, s'il me dit, il faut attendre.
On fait pas que dire qu'il faut attendre. En fait, quand on a des patients comme ça qui viennent et qui ont, à partir du moment où on a écarté ce qu'on appelle les drapeaux rouges, les red flags, donc à partir du moment où on a écarté les signes qui laissent penser qu'il y a une pathologie derrière, du type une fracture, une infection, etc., et ben, on sait que bouger, ça va faire du bien. On sait que rassurer les gens sur le fait qu'il n'y a rien de méchant et qu'il y a une sorte de protection au niveau du dos, le fait de rassurer les gens, ça va les aider. Et ça, j'ai plein d'exemples de gens qui vont déjà mieux juste quand on les rassure, en fait, quand on leur dit « Ok, tout va bien, c'est très chiant, c'est très douloureux, mais on est dans un truc, ça va passer, en fait. » Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve un moyen pour que ce soit plus confortable le temps que ça passe. Et oui, effectivement, on ne sert pas à rien à ce moment-là en tant que professionnel. On est là pour recevoir les gens, pour essayer de comprendre un peu le contexte, pour s'assurer qu'il n'y a rien de méchant, pour les rassurer s'il y a de quoi être rassuré et leur donner quelques pistes sur ce qu'ils peuvent faire pour que ça aille mieux et effectivement les accompagner vers le fait de bouger. Et si on arrive à trouver ensemble un exercice qui les soulage, bah banco, en fait, on a fait notre boulot, quoi. Après, moi, en tant qu'ostéo, je fais de la thérapie manuelle en plus, qui peut être une attente de certains patients. En général, quand les gens viennent en ostéo, ils ont quand même cette attente là donc le fait d'aller mobiliser, manipuler, et ça aussi, ça va permettre de rendre moins sensible la zone, quoi. Donc oui, on aide un peu, en gros, et ça c'est vrai aussi pour les kinés, hein. On va rendre le truc plus confortable le temps que l'évolution naturelle fasse son boulot, quoi. On est des super inducteurs de placebo.
Ouais. Ce qui était intéressant, tu vois, c'est que ce fameux kiné m'a dit, je l'ai vu que 3 fois, en fait. Hein, tu sais, en plus, le pire, c'est après, il partait en vacances, il m'a dit, vous faites vos exercices, j'ai pas besoin de vous revoir plus que ça. Après les vacances, vous revenez me voir si jamais vous avez mal. Et il y avait un exercice, il m'a dit, vous le faites 20 fois. Je suis d'accord. Il me dit, ça fait comment? Je dis, ça fait super mal. Et il me dit, bon, on va le faire ensemble. Et il me dit, bah, en fait, il faudrait le faire que 10 fois. Il dit, pour l'instant, vous pouvez le faire que 10 fois. Ça vous fait pas mal. 20 fois, ça provoque trop. Alors, je trouve ça intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'en fait, il avait un dosage d'un mouvement qui en lui-même était bon à petite dose. Et après, un peu comme dirait Paracel, c'est le poison, la quantité faisait le poison. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, déjà, bon, il voyait que je faisais mes exercices, il m'a dit, ah, je comprends, et hop, il me dit, ah, effectivement, faites voir. Et il m'a dit, effectivement, à partir d'un certain niveau, on voit que vous le faites plus comme il faut, qu'il y a un truc qui est en train de vous faire mal plus que d'autres et tout. Je lui dis, surtout, vous vous rendez pas compte, c'est que derrière, ça me lance, ça me lance pendant des heures, votre histoire. Il dit, d'accord, mais vous le faites plus que 10 fois. Donc, il y avait une question de dosage aussi.
Ouais, il y a une phrase en anglais qui dit que exercise is medicine, qui veut dire en gros l'activité physique c'est comme un médicament. Et bah, si l'activité physique c'est comme un médicament, bah comme n'importe quel médicament, c'est intéressant de s'intéresser au dosage. Si je prends 1 gramme de paracétamol, il y a des chances pour que ça me soulage. Si je prends une boîte de paracétamol, il y a des chances pour que ça me pose problème. Donc oui, en fait c'est comme beaucoup de cas, le dosage est important et le dosage il va dépendre de plein de facteurs en fait. Ça va dépendre de l'irritabilité de la douleur, c'est-à-dire à quel point un truc peut faire que la douleur elle flambe. Ça va dépendre de à quel point les gens arrivent à bouger à la base. Quand les gens ont très 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 mal, bah des fois c'est compliqué de faire le moindre mouvement. Ça va dépendre de la forme physique de la personne à la base. Je vais pas faire la même chose à quelqu'un qui est marathonien ou à quelqu'un qui fait de la force athlétique, parce que je fais un peu de force athlétique, ou à quelqu'un qui est sédentaire. Ils pourront pas faire la même chose. J'ai vu une patiente il y a 2 semaines qui fait beaucoup de sport. Elle fait du sport 8 ou 9 fois par semaine, donc des fois elle fait 2 séances par jour. Et en fait, elle avait des douleurs, je sais plus où c'était, je crois que c'était dans le bas du dos. Et on a fait des squats ensemble. Je lui ai fait faire des squats parce que ça peut avoir un intérêt, pas tant au niveau mécanique, mais parce que quand on le fait suffisamment pour que ça chauffe bien au niveau des muscles, des jambes, des cuisses, etc., et ben en fait, ça va produire des effets au niveau neuro notamment. Il y a la production de certains antidouleurs dans le corps qui peuvent permettre de soulager. L'objectif, c'était de trouver un truc qu'elle puisse faire de son côté pour soulager. Ça, je le fais avec certains patients, ils arrivent à en faire 15 et ils ont déjà les jambes qui chauffent. Là, j'ai fait avec elle, moi je me suis arrêté, je faisais avec elle, je me suis arrêté au bout de 100 et je l'ai laissé continuer. Voilà, j'ai fait allez-y, continuez, je continue à compter. Voilà, donc elle y allait quoi. Voilà, bah ouais, parce qu'en fait, elle a une telle forme physique en fait que, qu'en fait, elle peut en faire plein avant que ça lui chauffe vraiment. Donc, faut adapter forcément, faut adapter.
Oh punaise. Elle s'arrête à combien?
Finalement, c'est moi qui l'ai arrêté à 130. Je voyais qu'elle était un peu essoufflée. Je lui ai dit, bon, ça va aller. Au final, ça n'a pas bien fonctionné. Malheureusement, il a fallu que je trouve autre chose.
Voilà. Non, mais c'est vrai. Et l'état de forme des gens, en plus, tu dois avoir des gens vraiment différents. Parce que tu dis, il y a des gens à 15, ça chauffe. Mais moi, je vois dans ma famille, on pourrait pas des personnes âgées, enfin des retraités et tout, qui bougent pas beaucoup et qui finalement, ils bougent tellement peu qu'il y a des douleurs. Tu sais, tout à l'heure, je disais la douleur du canapé, hein, de rester dans le canapé et tout, mais vraiment, cette histoire-là, moi, c'est la douleur de ma chaise de bureau, en fait. C'est beaucoup, tu sais, d'être beaucoup assis et tout. Alors, on a beaucoup parlé de la sédentarité dans ce podcast, dire bouger, l'importance de bouger et tout, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui bougent tellement peu, qui finalement ont tellement peu de mouvement dans leur quotidien, que le fait de bouger un petit peu, d'un coup, ça, t'as l'impression que ça remet juste le fonctionnement du corps un peu à la normale, et que d'un coup, ça résout mais plein de trucs en chaîne, quoi.
Ouais, c'est clair, carrément. Et quand, pour les personnes qui sont très sédentaires, il y a pas forcément besoin de se dire, je vais aller faire 3 fois du sport par semaine. Des fois, le simple fait de se lever plus souvent, d'aller marcher un petit peu plus et de faire quelques pas en plus sur la journée, ça peut déjà faire une différence. Donc ouais, carrément.
Ouais. Moi, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Je disais de faire 10 squats en se levant de sa chaise. Tu sais, tu te lèves, tu te rassois. En plus, t'es en sécurité. Tu poses tes fesses dessus, donc tu risques même pas de tomber en arrière. Et c'est un exercice. C'était la discussion à Noël, repas de famille à Noël. J'ai des personnes âgées. Je leur dis et vous faites ça sur votre canapé, essayez de vous relever sans vos mains, sans vos bras et tout, de voir si vous arrivez à le faire petit à petit et tout. Et c'était un test. Et avec des personnes qui ont entre 70, 80 ans et tout, tu vois. Et on voyait qu'elles n'avaient pas la même capacité à le faire. Déjà et tout, qui avait des douleurs qui étaient différentes et une capacité à le faire. Mais je trouvais que c'était intéressant, tu vois, de dire c'est des petits exercices comme ça. Chez certaines personnes, ça paraît rien. Et pourtant, pour elles, c'est déjà beaucoup par rapport à leur niveau. Mais si maintenant, je prends l'autre côté du spectre, ceux qui font beaucoup, 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 beaucoup. Tu vois, on parlait de ta sportive, on parle des gens qui sont en préparation. Là, il y a le marathon de Paris, tu vois, les gens, ils sont en préparation et tout. Ils ont une douleur qui apparaît. Et ils disent voilà ça y est c'est foutu, j'ai mal au talon, j'ai mal là, je vais pas pouvoir courir, etc. et tout. C'est Est-ce qu'il y a des signaux, tu vois, enfin, c'est difficile à dire hein, comme ça, mais est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, je peux y aller quand même dessus, même si on a dit tout à l'heure, c'est difficile de dire tu peux courir ou pas avec la blessure ou pas, mais il y aurait quand même une alerte, tu vois, une espèce de drapeau, tu vois, tu te dis, là quand même, il y a un truc, il faut quand même aller vérifier absolument, quoi.
C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce qu'effectivement, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Spontanément, j'aurais tendance à dire comme ça. Bon, comme tu disais, quand on fait du sport, avoir des douleurs qui apparaissent, c'est des trucs qui arrivent quasi de manière inévitable. Hein. Forcément, ça t'arrivera un jour. Et voilà, parce que juste, bah, ça arrive quoi. Qu'on fasse du sport ou pas, il y a un jour où on aura mal. C'est juste que quand on fait du sport, il y a des probabilités pour que ça arrive quand on fait du sport. Est-ce que ça veut dire que le sport c'est mauvais ? Non. Ça peut être intéressant d'essayer de comprendre pourquoi c'est apparu à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des variations au niveau de l'entraînement ? Est-ce qu'il y a eu des grosses variations au niveau du volume ou de l'intensité de l'entraînement ? Est-ce que la récupération est moins bonne si on a moins bien dormi, si on est plus stressé, si l'alimentation est un peu moins bonne ou différente ? Bref, tout ça, ça peut jouer. Après, la question c'est est-ce qu'on peut s'entraîner avec ? Ou est-ce qu'il faut les consulter ? Bon, je pense que de toute façon, si c'est très handicapant, ça vaut le coup de consulter pour avoir un avis, quoi qu'il arrive. Si c'est peu handicapant, je pense que... Alors moi, ce que je dis en général à mes patients, c'est que... Et je sais que ça peut être parfois libérateur pour certains, et notamment chez certains coureurs. Je leur dis que des fois, c'est OK de s'entraîner avec un peu de douleur, avec certaines précisions. En gros, l'idée, c'est que ça peut être OK si la douleur, elle est relativement faible, mais ça, c'est très individuel. On n'a pas tous la même perception, etc. Des fois, on dit, voilà, une douleur à 3 sur 10, donc il y a un truc, c'est chiant, mais c'est gérable, quoi. Donc, une douleur qui est gérable, une douleur qui reste stable pendant l'entraînement, ça, c'est OK. C'est-à-dire que si la douleur, elle augmente, bon, bah, clairement, il faut s'arrêter ou il faut adapter, quoi, mais... Si la douleur reste stable, pourquoi pas? Et après, il faut voir comment ça réagit dans les 24 heures qui suivent. Si dans les 24 heures qui suivent, il y a une très grosse augmentation, comme c'était ton cas, toi, avec les exercices que tu avais prescrit de kiné, clairement, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que c'est bien qu'il t'ait proposé de changer, ou en tout cas de réduire un peu le volume de tes exercices, parce que si ça déclenche très très fort ensuite pendant des heures ou pendant 24, 48 heures, clairement, c'est que c'est trop. Donc il faut changer quelque chose. Et changer quelque chose, ça peut être ou bien réduire le volume ou l'intensité. Donc quand on court, ça peut vouloir dire courir moins vite, courir moins longtemps. Parfois, c'est moins de dénivelé. Alors là, ça va dépendre de quelle est la problématique. Il y a certaines zones anatomiques où on sait que le dénivelé va plus poser problème, la descente ou la vitesse. Bref, donc ça, c'est bien de consulter quelqu'un qui s'y connaît un peu. Dans certains cas, le simple fait de changer la technique peut être bénéfique. Bon, en course à pied, c'est pas évident. Course à pied, c'est pas évident parce que varier la technique de posage de pied, c'est pas forcément recommandé comme ça. Je veux dire, entre avoir une attaque médio-pied, avant-pied ou passer sur une attaque talon, ça se fait pas intuitivement et c'est pas forcément recommandé. Mais moi, je vois beaucoup de gens qui font fitness, muscu, force, etc. Des fois, on a mal sur un exercice. Le simple fait de changer un tout petit peu la position qu'on a, la douleur, elle disparaît. Et on peut s'entraîner quasiment pareil. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois où j'avais mal sur un truc. Ou bien je réduis un petit peu les charges et j'augmente mon nombre de répétitions, donc je mets la même intensité au final, zéro douleur. Ou bien je garde la même charge, mais je modifie un tout petit peu ma technique. Ou bien des fois, bah, je trouve un autre exercice qui va travailler les mêmes choses, mais un petit peu différemment. Bah, par exemple, en muscu, c'est facile. Hein, tu as envie de travailler un muscle, tu as 12 000 exercices qui travaillent le même muscle. Si un exercice qui te fait mal, bah, temporairement, tu mets cet exercice de côté et puis tu fais un autre exercice et tu y reviens plus tard. Quoi. En course à pied, ça peut être un poil plus compliqué, ça peut nécessiter un peu plus d'ajustement, comme je disais, au niveau... du dénivelé, au niveau de la vitesse, etc. C'est un peu plus complexe.
Ouais, c'est un peu complexe parce que moi, j'ai eu un changement de foulée et je sais combien de mois ça m'a pris pour changer de foulée. Changer de chaussures, changer de foulée, travailler ça et que même des fois, il y a des espèces de résidus de mon ancienne foulée qui reviennent avec la fatigue, avec un peu des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que c'est super compliqué, ces choses-là. Par contre, tu vois, ça m'a apporté... J'ai deux questions dans ma petite tête, alors je vais essayer de pas les oublier. Chez les coureurs, on a quand même des trucs qui s'appellent les... Comme dans plein de sports, de toute façon, tu sais, c'est les courbatures. Après des entraînements, on a le mythe du marathonien qui n'arrive pas à redescendre des escaliers, tu sais, le lendemain de la course, etc. Et tout. C'est de la douleur. On considère que c'est la douleur, une courbature ?
Oui, ah ouais. Tout à fait, c'est de la douleur. C'est de la douleur qui est... Alors, de mémoire c'est probablement lié à des micro-lésions au niveau musculaire. Il y a des hypothèses aussi que peut-être qu'il y aurait des effets, il y aurait peut-être des choses au niveau neurologiques au niveau de certains nerfs qui seraient, qui auraient des micro-lésions aussi et qui se réparent ensuite derrière. C'est de la douleur, mais qui est normale. Enfin, normale. Oui, c'est de la douleur qui est normale, dans le sens où avoir des courbatures, c'est pas anormal. Mais après, c'est surtout normal quand on va faire un effort qui est inhabituel, quoi. C'est-à-dire que j'imagine que toi, quand tu t'entraînes régulièrement dans la semaine, t'as pas de courbatures après tes entraînements.
Ça dépendait d'une époque. Une époque où, tu sais, quand j'ai changé, bah, quand je suis rentré en club, et ça, c'est un truc intéressant. Quand j'ai commencé en club, j'ai commencé à faire des trucs de VMA, des accélérations, des 30-30, des trucs. Alors, le volume était plus gros dans la journée, parce que ça montait jusqu'à 17 bornes, hein, en 1h30, tu vois, à peu près, avec des accélérations, avec des 1000 mètres, des 200, des 400, des 600 à fond. Et après, ouais, le lendemain, j'étais, mais cassé, mais tout. Les premiers temps. Au bout de quelques semaines, mois, ça passait. Ouais. Alors, je dis pas que ça passait crème, mais ça passait, quoi.
Oui, ouais. Enfin, l'entraînement restait compliqué, mais tu avais moins de courbatures derrière, juste parce que ton corps est plus habitué à ce type d'effort, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je m'entraîne à faire des squats, j'arrive à faire des squats avec, c'est pas énorme, 100... hier j'ai fait 115 kilos en full amplitude, j'ai zéro courbature. Ma femme, elle court, je vais courir avec elle 5 km, je suis au bout de ma vie, quoi. J'ai couru par le passé, je cours plus maintenant, mais juste mon corps est plus habitué à ça, en fait. Pourtant, en termes d'intensité, je pense que entre 5 km courus à 12 km heure, pardon, 8 km heure, je courais à 8 km heure, je pense, je suis nul. Ouais, j'ai pris du poids, c'est la force, ça, on mange beaucoup.
Ouais, mais c'est vrai que tu portes lourd aussi, attends, t'as du muscle. Hein,
j'ai du muscle, ouais. Ouais. Donc, je cours plus assez. Mais voilà, je veux dire qu'en termes d'intensité, une séance de force, je mets vachement plus d'intensité que si j'allais courir. Et pourtant, je serais vachement plus courbaturé après la course parce que juste mon corps n'y est pas habitué. En fait, il n'y est plus habitué. Donc, il y a beaucoup une question d'habituation, en fait.
Ouais. Et tu sais, j'ai écouté un jour, parce qu'à une époque, je faisais des interviews de joueurs de rugby professionnels. Et je me rappelle un joueur de l'ASM Clermont-Auvergne, à l'époque, il était champion de France, tu vois, ou presque champion de. Et tu vois, genre, finale championnat d'Europe. Il y avait un joueur. Qui revenait de blessure, tu sais, d'une longue blessure et tout. Et il y a un journaliste qui lui pose la question et il dit c'est quoi le plus dur? il dit tu vas être content là de reprendre le sport et tout, ça fait des mois que t'as arrêté et tout. Et il dit je dois me réhabituer à la douleur après l'entraînement, des chocs, parce que le rugby c'est quand même un sport de bourrin, il se rentre et tout dedans.
Ouais, c'est sûr.
Et il dit ouais, la douleur, enfin il dit la blessure et tout, c'était un truc, mais il dit après l'entraînement, il dit, mais j'ai mal, je dois me réhabituer au coup, au choc, la nuit, d'avoir certaines douleurs qui remontent et ce tout. Alors, bien sûr, c'est des professionnels. Donc, le mec il est obligé, son métier, etc. Et là, on est dans un cadre qui est très particulier. Mais qui montrait quand même qu'à un moment, il s'était habitué à ne plus avoir mal. Tu vois, dans son parcours et tout, qui a peut-être même pris goût, tu vois, à un moment donné. Parce que juste, il a tellement l'habitude d'avoir mal toute l'année à l'entraînement, peut-être 10 mois dans l'année, que le jour où ça s'arrête, ça rend peut-être pas compte finalement, mais le jour où il se reprend les chocs qu'il reprenait, tout d'un coup il dit oula, dis donc, le truc ça faisait mal quand même.
Alors la question c'est, est-ce que avant de s'arrêter, est-ce qu'il avait mal mais qu'il y était habitué, ou est-ce qu'il avait moins mal? Parce que c'est aussi possible, à force de se prendre des coups, en fait on sent moins la douleur, parce que à partir du moment où on habitue nos tissus, encore une fois, à se prendre certaines stimulations qui deviennent quasi normales, et ben en fait elles sont perçues comme moins dangereuses, en fait. Il y a des exemples de certaines ethnies où ils font des sortes de rituels, notamment j'ai vu des images où ils font des trucs où ils se plantent des clous, dans des sortes de grandes piques à brochettes comme ça dans la joue. Ils font des trucs, on se dit, comme les fakirs, on se dit mon Dieu. En fait, c'est des trucs où ils habituent, en fait, où ils se mettent dans un état d'esprit qui fait que la lésion n'est plus perçue comme une menace, et donc du coup ils arrivent à s'abîmer certaines choses parfois sans douleur. Donc la question c'est, est-ce qu'avant il avait encore mal ou pas? Ça se trouve il ressentait plus tant de douleur que ça parce que en fait c'était habitué. La bonne nouvelle c'est que ça peut revenir, hein. S'il se re-expose de manière régulière à se prendre des plaquages, ça va revenir, quoi. Ça va revenir.
Ouais. Je pense qu'en plus le pire c'était que c'est lui qui mettait les plaquages. Ouais. Il avait mal en plus. Ouais. Et ça fait un bruit en plus. Et ceux qui n'ont jamais vu un match de rugby, en plus à haut niveau, vous entendez les chocs, vous dites, mais comment le mec mais après on comprend pourquoi ils ont des gros muscles. Il y a aussi la protection, c'est vrai aussi en plus, hein, sur des sports aussi, ils ont l'habitude de tomber, de chuter. Moi j'ai vu un jour un trailer, pas très haut niveau, hein, mais qui a pris une gamelle et tout. J'ai dit, mais comment il se relève? Et il s'est relevé, il est reparti, il n'entend rien. Alors, et je dis, ça va, ça fait pas mal. Il dit, non, non, et tout. Et par contre, tu sais, on a eu des gens, j'ai eu un invité, qui ont couru avec des côtes cassées, qui se prennent des gamelles, mais monstrueuses, et qui se font mal. Certains même avant la course, et qui derrière vont faire un trail. Je me rappelle, alors, la spécialiste, c'est quand même Sissi Cusso, qui s'est cassé je ne sais pas combien de fois, qui a couru, qui fait des trucs. On pourrait parler de casse verte, etc. Et comment ça se fait? Enfin, ils arrivent à finir des courses. Ils font 100 bornes, des fois, certains, en ayant des choses qui sont cassées. Alors, normalement, tu dis, enfin, tu devrais t'arrêter, quoi. Il y a un moment donné, ça devrait faire stop.
Mmh. Ça dépend. C'est là aussi, il y a plein de facteurs qui peuvent venir moduler un petit peu la nociception, parce que, encore une fois, là, tu te casses quelque chose, il y a de la nociception, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. Ça envoie des messages de nociception. Sauf que ces messages de nociception, ils peuvent être modulés par plein de trucs. Par exemple, on peut citer l'analgésie induite par l'effort, c'est-à-dire le fait de faire un exercice physique, ça peut faire qu'on produit des antidouleurs, des endorphines, etc., qui peuvent faire qu'on a moins mal, voire pas mal du tout. Des fois, il y a une notion d'enjeu, de stress qui fait qu'on est dans un contexte où on est focus sur un truc et en fait, on reste focus sur ce truc. Mmh. Et comme ça, on a des exemples aussi. Un autre exemple très connu dans le milieu de la douleur, c'est une surfeuse australienne. Est-ce qu'elle était australienne? Peut-être américaine, mais c'était en Australie. Bethany Hamilton, jeune surfeuse qui s'est fait croquer le bras par un requin. Et qui s'en est pas rendu compte tout de suite, en fait. C'est-à-dire que elle était en train de nager, et puis il y a tous les surfeurs autour qui ont dit « Attention, requin, requin, requin !» Donc elle a commencé à nager le plus vite possible pour rentrer sur la plage. Et en fait, arrivée sur la plage, il lui manquait son bras. Et elle s'en est pas rendu compte. Arrivée sur la plage, quoi. Enfin, il lui manquait, c'était coupé à ce niveau-là, quoi. Parce qu'à ce moment-là, le stress fait que la priorité, là, tout de suite... c'est de se sauver, en fait. Donc, ouais. Si elle s'était arrêtée en mode « Ah, ben en fait, elle se serait peut-être noyée, ça se trouve, le requin l'aurait fini, enfin bref. » Donc, à ce moment-là, la priorité, c'est la survie, donc on se barre. Et il y a d'autres exemples comme ça, de gens qui ont, notamment des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, qui, un jour, lors d'une radio, genre, c'était des années et des années après la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il avait une balle logée dans le crâne, quoi. Qu'il a probablement reçu sur le champ de bataille à un moment où il était en train d'essayer de sauver sa peau, et en fait il a eu de la chance d'y survivre, mais surtout en fait ça lui a jamais posé de problème parce que le stress de la situation, l'adrénaline a fait que ça a coupé les messages de douleur, parce qu'on a dans notre corps des antidouleurs qui sont beaucoup plus puissants que la morphine, en fait. Donc dans certaines situations ils peuvent se déclencher et ils peuvent totalement annihiler la douleur même quand il y a une blessure, ce qui est assez fou.
C'est quand même assez hallucinant. Tu vois, en parlant, je me rappelle la fois où je me suis cassé le coude. Derrière, j'ai fait des pompes. Je raconte le truc parce que comme ça, les gens seront au courant. Je vais le 5 janvier, une année, je range mon bureau, je sors les poubelles, il y a une pluie verglaçante, je me casse la gueule en allant sortir les poubelles sur des trucs. Derrière, après, tu sais, je vais voir un match de foot, de Coupe de France, je fais mes pompes, mes squats. Enfin, squat, c'est pas besoin de boire, je m'en fous. Je fais des pompes, je fais du gainage, je fais tout ça. Je conduis, je fais ma journée complète. Je dors relativement assez bien, tu vois, quand même. Je dis, j'ai un peu mal. Le lendemain matin, je veux mettre ma chemise, hop, je tombe dans les vapes.
Ah ouais.
Et là, je me dis, bon, il y a un truc. Je me recouche, je remets le truc, et puis on va au CHU, et me dit, il n'y a rien. je dis, pourquoi j'ai mal? Et après, ils se sont rendus compte qu'il y a une petite fracture du coude, quand même, sur le truc. Mais n'empêche que j'ai réussi à conduire, j'ai réussi à faire des pompes, j'ai réussi à faire des squats, les squats, on s'en fout, du gainage, tu vois, mes exercices, gainage latéral, y compris d'ailleurs sur le coude qui était cassé, sur le cru. Je dis, ça me fait un peu mal, mais pour moi, c'était un bleu, tu vois, ce truc-là. Et après, tu te suis rendu compte que c'était une fracture. Mais franchement, aller voir un match de foot, c'est pas comme si j'étais poursuivi par un lion, quoi. Je veux dire, sortir mes poubelles au niveau de l'analgésie...
Bien sûr. Après, comme je dis, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, tu étais content d'aller voir ton match de foot. Donc, peut-être que quand tu es tombé, tu t'es dit, bon, c'est rien. Et donc, du coup, vu que tu étais vraiment pas inquiet par rapport au truc, ça a diminué un petit peu le volume de la nociception. Alors, oui, tu avais mal, mais c'était gérable, quoi. Tu vois, dans un cas comme ça, on peut avoir deux réactions un peu extrêmes. Il y a la réaction de « ouf, c'est rien, j'en ai rien à foutre », et il y a la réaction de « oh mon Dieu, c'est catastrophique, je vais plus pouvoir bouger le bras toute ma vie ». La réaction de « mon Dieu, c'est catastrophique, je vais plus pouvoir bouger le bras toute ma vie », les gens qui ont ce genre de réaction, ils les ont pas pour rien. Hein. C'est-à-dire que souvent, on leur a mis dans la tête des croyances de fragilité vis-à-vis du corps, si tu te fais ça... Par exemple, j'ai une patiente que j'ai vue cette semaine qui me disait... 68 ans, elle a une légère ostéopénie, donc c'est avant l'ostéoporose, mais elle a une légère fragilité osseuse. Elle me disait que son médecin lui avait dit « Madame, si vous tombez, vous vous cassez. » c'est super hein, pour pouvoir se déplacer de manière parfaitement aisée, enfin, tu vois, pour être à l'aise dans son corps. Ouais. Donc elle est en permanence en train de flipper, de tomber. Bref. Donc, il y a des croyances qu'on met dans la tête des gens comme ça, de fragilité, qui peuvent faire que si les gens ont un truc, ils vont tout de suite s'imaginer que c'est terrible, que ça va pas guérir, qu'ils vont être handicapés toute leur vie. Et c'est ce qu'on entend parfois auprès de certains gros comptes dans le fitness, par exemple, qui disent que, attention, si tu fais ce mouvement-là, tu vas être handicapé toute ta vie. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle du catastrophisme. Le catastrophisme, c'est donc un état dans lequel on est qui nous fait dire que, quand on a un truc, on s'imagine que ça va être très très grave et que ça va jamais guérir. Et ça, on sait que non seulement ça fait que les douleurs, elles sont plus susceptibles de durer dans le temps, quand on a du catastrophisme, mais même les douleurs peuvent être ressenties comme plus intenses. Je te donne un exemple. Je suis retombé sur une étude là, attends, je l'avais sous les yeux là. 2008, ils ont fait une étude où en fait ils ont pris des gens, ils leur ont mis les mains, encore une fois des gens qui étaient volontaires pour participer à une expérience sur la douleur, ils leur ont mis les mains dans un bain d'eau glacée. Et en fait ils leur disaient, bah, vous gardez les mains dans le bain d'eau glacée aussi longtemps que vous pouvez jusqu'à ce que ça fasse mal, et quand ça vous fait trop mal, vous les sortez. Et en fait, ils ont essayé de mesurer les taux d'interleukine 6, qui est en fait un truc pro-inflammatoire, enfin un marqueur d'inflammation dans le sang. Parce que quand il y a de l'eau très très froide, bah, ça peut créer une petite inflammation. Et donc du coup, ça donnait une idée d'à quel point il y avait de l'inflammation liée à cette stimulation-là. Ils se sont rendus compte que le niveau d'inflammation qu'il y avait dans le corps et le niveau de douleur perçu, il n'était pas perçu, il n'était pas corrélé au temps que les gens mettaient la main dans le froid. Il était corrélé avec le catastrophisme qu'avaient les gens. C'est-à-dire que si les gens, on leur avait dit si vous restez longtemps, ça va abîmer votre main, et ben, il y avait plus d'inflammation. C'est-à-dire qu'encore une fois, le simple fait qu'on leur ait mis une croyance de « on est en train de vous mettre en danger », et ben, en fait, il y avait plus d'inflammation, il y avait plus de douleur. Donc, pour revenir à ton histoire de coude, si t'arrives un truc et que tu te dis « ouf, c'est rien », et ben, en fait, il est probable que t'aies vachement moins d'inflammation. Il est probable que la nociception elle, soit vachement moins importante et donc que du coup, t'es vachement moins mal. À l'inverse, si on te dit « ah bah, le coude... c'est chaud, hein. Peut-être que tu vas plus pouvoir fonctionner normalement, tu vas plus pouvoir travailler. Voilà, quand c'est le coude, toi tu fais de la course. Si on t'avait dit, si c'était le genou et qu'on t'avait dit, oulala, le genou, ça se trouve, tu pourras plus jamais courir. Tu vois, plein de trucs comme ça, et ben, c'est possible que la douleur, elle aurait été ressentie vachement plus intense. Et c'est un truc qu'on retrouve, et je termine là-dessus parce que je suis inarrêtable. On s'est rendu compte que, par exemple, en fonction de ce qu'on fait dans notre vie, et ben, un même truc va pas être perçu de la même manière. Par exemple, un violoniste, si tu lui fais une blessure au doigt, eh ben, ça sera vachement plus douloureux pour lui que si tu es footballeur. Parce que footballeur, tu as une blessure au doigt, c'est pas dramatique. Tu pourras continuer à jouer. Tu es violoniste, tu as une blessure au doigt, ça peut mettre en péril ta carrière, ton identité. Donc, plus de douleur. Donc, dans ton cas, peut-être que le coude, c'était pas aussi important que ça avait été ton genou, tu vois. Si tu t'étais fêlé la rotule, peut-être que tu aurais vachement plus mal.
Et en fait, j'ai deux anecdotes là-dessus. La première, c'est que là, je m'étais cassé le coude gauche et quand j'étais jeune, je m'étais cassé le coude droit. Bon. Et tu sais, j'avais entendu dans les anciens, on disait, ouais, le coude, une fois que tu t'es cassé, ça replie jamais, enfin, tout, tu vois, ce truc-là, dans ce genre-là. Mais comme j'étais jeune, tu sais, on m'avait mis avec des poulies dans des cages et tout. Ouais, le coude, franchement, il est revenu, mais nickel et tout. Et donc, je m'étais pas inquiété, tu vois, parce qu'après, on a dit, oh, la rééducation, etc. Puis en plus, ma kiné, elle est super efficace, elle m'avait remis d'aplomb, tu vois, sur d'autres trucs, enfin, tu vois, notamment pas mal. Et d'ailleurs, le CHU m'a dit, vous avez quand même une sacrée kiné parce que retrouvez l'amplitude totale de votre bras. Comme ça, à ce point-là, il me dit, quand même, chapeau à cet âge-là et tout. Bon, ils m'ont dit, gardez-la. J'ai pas l'intention de la garder, même si elle est très demandée, tu vois, sur des trucs comme ça. Par contre, le genou, je l'ai eu aussi, cette histoire-là. Et la pensée catastrophique, je l'ai eu. C'est-à-dire que un jour, je cours dans la neige, je me vois et tout, j'étais tellement heureux et tout, j'ai le genou qui tord, ça commence à gonfler, etc. Et là, j'avais vraiment mal, c'est. Et donc, c'était rempli de flotte, etc. et tout, j'avais vraiment des douleurs. Et il me dit, ouais, on comprend pourquoi vous avez mal. Et je suis allé après au CHU, ils me disent, ouais, mais là, la rotule, tu sais, était tout abîmée, comme ça et tout. Ils m'ont dit, mais ça fait, à l'opération, ils m'ont dit, ça fait très longtemps que vous avez ça. Et tu vois, pourtant, ça m'avait jamais fait mal et tout avant. J'avais mon genou, tu sais, je sais que j'étais tordu un petit peu, j'avais des trucs un peu bizarres, quoi. Mais ça m'avait jamais fait mal. Et je pense même que ça datait de mon adolescence. Donc, il y a 30 ans, tu vois, sur ce truc-là. Ça se trouve, ça n'avait pas été opéré. Ça serait passé, en fait. J'en sais rien dans cette histoire-là. On ne peut pas le savoir, ça. On n'a aucune certitude dans ces histoires-là.
C'est compliqué. Alors, sur une personne individuellement, c'est impossible à savoir. C'est pour ça qu'après, on essaie de faire des études scientifiques pour voir sur des grands groupes de population, quand on compare un traitement par rapport à un autre, est-ce que ça a un réel intérêt. Sur ce truc-là spécifiquement, je ne saurais pas te dire. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que, et c'est un truc qui a beaucoup de mal à être accepté parce que ça semble être contre-intuitif, c'est que l'état des tissus est très mal corrélé avec les douleurs. Et que se baser juste sur l'état des tissus, et notamment si on parle de d'usure, je le mets entre gros guillemets, de processus du style de l'arthrose, de machin, etc., on sait que c'est extrêmement mal corrélé avec la douleur et que modifier, essayer de changer ces facteurs-là, c'est pas forcément un bon indicateur de est-ce que ça ira mieux derrière. Et ça, c'est un gros changement qu'on a dans le fonctionnement de la douleur et qui fait que bah, parfois, il y a des grosses incompréhensions avec d'autres professionnels de la santé ou du sport. C'est que si on reste bloqué sur l'ancien modèle qui est que t'as mal parce que t'as de l'arthrose ou t'as mal parce que t'as une hernie, oui, dans certains cas, ça peut contribuer, hein, mais c'est rarement aussi simple que ça. Ou alors t'as mal parce que ta posture est pas bonne ou ta jambe est trop courte, et ben en fait, on sait que se focaliser juste là-dessus, c'est probablement pas très efficace. Voilà, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Et très souvent, on arrive à améliorer les choses sans changer l'arthrose, sans changer la hernie, sans changer la posture ou sans changer la différence de longueur de jambe.
De toute façon, l'arthrose, ça se... à part dire qu'il y a de l'arthrose, pas faire grand-chose, quoi.
Alors, on peut pas faire grand-chose. Alors, ça dépend. J'ai fait une newsletter sur le sujet il y a 2-3 mois, je crois. Je sais pas si tu es inscrit à ma newsletter ou pas.
Récemment, donc je l'ai pas vu, mais je me suis inscrit quand même récemment.
Bah, écoute...
parce que j'ai vu des trucs, je voulais avoir les... Tu sais, quand tu dis, oh, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je dis, ouais, il faut absolument que je m'inscrive, il y a des trucs qui m'intéressent.
Et bah, écoute, j'ai sorti une newsletter, je te l'enverrai si tu veux, sur le fait que l'arthrose, c'est pas une question de contrainte mécanique, ce qui est une affirmation qui peut sembler surprenante, hein, que l'arthrose n'est pas une question de contrainte mécanique. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des chercheurs spécialisés dans l'arthrose qui expliquent que les mécanismes impliqués dans l'arthrose, on a longtemps pensé que c'était bah voilà, des contraintes répétées qui vont créer de l'usure, etc. Du coup, je suis un petit peu en train de répondre à la question que j'avais lancée en intro à propos de la course à pied et de l'arthrose. C'est pas grave, je pense que c'est intéressant quand même. Les gens pourront quand même aller voir la vidéo.
J'irai voir parce que je pense qu'il y a beaucoup de détails après dans la vidéo connaissant.
Alors, c'était des premières vidéos que j'ai faites, elles étaient plus courtes parce que je crois que ces vidéos-là, elles faisaient 8-10 minutes alors que par la suite, j'en ai fait des vidéos de 40 minutes. Mais bref, la newsletter dont je te parle là, je vais en faire une vidéo, je pense, spécifiquement sur l'arthrose et les contraintes mécaniques parce qu'elle me semble importante. Parce que, donc, tu dis, il n'y a rien à faire quand on a de l'arthrose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arthrose, c'est un processus normal de vieillissement du corps. C'est-à-dire qu'on est sur des changements normaux liés à l'âge, exactement comme le fait d'avoir des cheveux blancs. Voilà, peut-être un peu de blanc dans ta barbe. Je commence à en avoir un petit peu aussi. J'ai peut-être moins de cheveux que quand j'avais 18 ans. C'est la vie, tu vois. C'est comme ça. Ouais. C'est des changements normaux liés à l'âge et qui ne sont pas forcément problématiques et qui, la plupart du temps, ne sont pas problématiques. La question, c'est est-ce que la contrainte augmente ça ? Et bien, comme souvent, c'est une question de dosage, mais globalement, le cartilage, il aime plutôt la charge. Il aime qu'on le sollicite, et en fait, il va beaucoup plus se dégrader si on s'en sert pas que si on s'en sert. Et dans les cas de course à pied, on a plein de données qui montrent que les gens qui courent ont moins d'arthrose que les gens qui sont sédentaires, et même pour des gens qui vont faire des trucs totalement dingos, par exemple, ils ont suivi des gens qui faisaient un marathon par jour, pendant plusieurs jours, sur un total de 4000 km, je crois, et ben en fait, il le suivait avec une IRM et regardait son genou au fur et à mesure, le cartilage s'adaptait, le cartilage se renforçait. Ce qui est totalement hallucinant quand on y pense. Donc, il y a une adaptation possible du cartilage, et en fait, le cartilage, il aime la charge. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, quand on dit aux gens, vous avez de l'arthrose parce qu'il y a trop de contraintes, vous avez de l'arthrose parce que, typiquement, on dit, vous avez de l'arthrose, vous êtes en surpoids. On dit, vous êtes trop lourd, il faut que vous perdiez du poids. C'est vrai que perdre du poids peut aider quand on a de l'arthrose, mais pas pour les raisons qu'on pense. C'est-à-dire qu'on pense souvent que c'est parce qu'il y a trop de contraintes sur les articulations et qu'on va réduire les contraintes. Oui, c'est sûr que si on réduit un peu les contraintes, si le tissu est très sensible, ça pourra aider. Mais c'est pas parce qu'il y a de la contrainte que le tissu est devenu sensible. En fait, dans le cas du surpoids, ce qui pose problème, c'est plutôt de l'inflammation. En fait, les gens qui sont en fort surpoids, qui ont un taux de masse grasse qui est élevé, parce que quelqu'un qui est très musclé, quand on regarde son IMC, il sera en surpoids, mais voilà. Quelqu'un qui a un taux de masse grasse qui est élevé, il a plus d'inflammation qui circule dans son corps. Et ça, on sait que ça joue sur les douleurs articulaires comme l'arthrose. Et c'est ça qui pose problème, en fait, c'est l'inflammation. Mais si on dit aux gens, vous avez mal à cause des contraintes, eh ben, les gens, ils vont pas vouloir bouger. Bah, typiquement, tu lui dis, t'as de l'arthrose de genou, on lui dit, bah, vous pouvez aller courir. Ils vont dire, oh, bah, surtout pas, parce que du coup, je vais mettre des contraintes sur mon genou et donc ça va empirer le truc. Alors qu'on sait que c'est l'inverse. On sait que solliciter le genou, si c'est fait de manière adaptée, progressive, ça va plutôt aider. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de l'arthrose? Bah, en fait, oui. Si on est en surpoids, perdre du poids, ça pourra aider, mais surtout bouger plus et réutiliser le genou, ça va aider. Mais c'est pour ça qu'il faut comprendre que l'arthrose, c'est pas une question de trop de contraintes mécaniques, c'est une question d'inflammation, en fait. Et le fait de bouger va plutôt aider. Et en disant aux gens, c'est de la contrainte mécanique qui a provoqué votre arthrose, et ben en fait, on les incite à moins bouger, ce qui est dommage, parce qu'en fait, ils ont besoin de l'inverse, ils ont besoin de bouger.
Mais des fois, je me demande même s'il y a des trucs que j'ai entendus dans ma vie, tu sais, sur... faut pas courir, mais il faut mieux aller à la piscine quand t'as telle ou telle douleur, etc. C'est pas contre-productif parce que finalement, tu sais, c'est un peu comme... j'ai toujours l'image des cyclistes. Tu sais, alors moi, je le savais pas, mais les cyclistes, en fait, ils ont des problèmes de faiblesse dans le squelette, dans les jambes, parce qu'en fait, il n'y a pas de contrainte. Ils sont toujours portés par rapport à des coureurs et tout. Et c'est un peu cette histoire en me disant, bah oui, bah, va faire de la natation, ça va te faire du bien et tout. Mais si finalement, tu... Bon, je dis pas que la natation ne sert à rien, attention, parce qu'il y a renforcement, etc. et tout. Ouais. Mais le fait de marcher, que le, même de courir, de mettre des contraintes sur les os, sur le bas du corps, et d'avoir des chocs et tout, ça amène un renforcement, ça amène une adaptation. Donc, dire à des gens, bah, t'as mal en bas, donc fais un truc qui va faire travailler le haut et qui va soulager le bas. Je me dis, peut-être que oui, sur un temps, ça doit soulager probablement les douleurs, mais qu'à terme, il faut quand même revenir à une situation où la personne puisse faire l'activité.
Ouais.
Qui va la permettre de faire fonctionner tout le corps.
Oui, je suis d'accord. En fait, pour moi, je pense que la natation, elle peut avoir un intérêt dans deux cas. Dans un cas où les gens, ils ont tellement mal que le simple fait de porter leur poids sur terre, c'est compliqué. Bah, là, le fait d'être dans l'eau, ça les décharge un petit peu, donc ça leur permet de bouger un peu plus confortablement. Donc pour moi, carrément, dans un cas comme ça, ça peut être cool. Et deuxième cas, c'est si la personne, elle aime bien faire de la natation. Parce que si elle aime bien et que ça la motive à y aller régulièrement, pas de problème, qu'elle aille faire de la natation. Par contre, moi, je vois plein de gens qui me disent « Ah ouais, j'ai mal au dos, faudrait que j'aille à la natation, mais ça me saoule. » Ben, je leur dis « Bah, allez pas faire de la natation, en fait. Si ça vous saoule, ça sert à rien, en fait. » Parce que on sait que le meilleur exercice, c'est celui que vous ferez régulièrement. Et si ça vous saoule, on est tous pareils. Hein. Au début, on y va, et au bout d'un moment, on fait « Ah, il pleut, j'ai pas envie de sortir. Ah, il fait un peu froid, j'ai pas envie de sortir. » Et on n'y va pas, en fait. Donc, le but, c'est surtout de trouver une activité qui nous plaît. Il n'y a pas de différence fondamentale en termes d'efficacité sur le mal de dos, en tout cas, il n'y a pas de différence fondamentale d'efficacité entre de la natation et de la course à pied ou de la gym ou de l'escalade. On sait que faire de l'activité physique, ça fera du bien. L'idée, c'est juste trouver un point d'entrée où on arrive à le faire sans que ça déclenche trop de douleur. On y va régulièrement, progressivement, et ça fera du bien. Après, sur la question de renforcement, le fait d'être en charge, ça va effectivement avoir des effets bénéfiques, notamment sur les os. Ça, clairement. On sait que les impacts vont avoir tendance à renforcer les os, et c'est ce qui est recommandé notamment pour les personnes âgées, pour prévenir l'ostéoporose, éviter les fractures, etc. On sait qu'il faut mettre des contraintes. Donc, la course à pied, ça peut être bénéfique, les sauts, ça peut être bénéfique, porter des charges, ça peut être bénéfique. Et ça, dans la natation, on ne l'a pas. Donc, encore une fois, je préfère quelqu'un qui va faire de la natation plutôt que rien du tout, ou alors quelqu'un qui va dans l'eau parce que ça lui permet de se remettre en route et qu'ensuite il va faire d'autres choses. Ou alors juste parce qu'ils adorent la natation et c'est très bien, mais effectivement, il y aura probablement des intérêts à mettre des contraintes un peu plus importantes sur le corps en général. Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur les personnes âgées qui ont parfois du mal à se relever de la position assise. Bah, passé 40-45 ans, on perd du muscle en fait. Si on ne l'entretient pas, on perd du muscle chaque année, et au début, on ne s'en rend pas compte. Au début, on ne s'en rend pas compte, mais quand on arrive vers 70, 75, 80 ans, ça fait une énorme différence. Mais c'est énorme. Moi, je vois des gens de 80 ans, entre ceux qui font du sport et ceux qui n'en font pas, ils font 20 ans d'écart. Ouais. Quelqu'un qui a 80 ans, qui ne fait pas du tout d'activité physique, qui n'arrive pas à se lever de la position assise, pas parce qu'elle a mal, mais parce qu'elle n'a pas de force, et ben on sait que c'est un gros prédicteur de mortalité, en fait. Hein. Les gens vont mourir plus vite, ils ont plus de risques de tomber, d'avoir des séquelles liées à ça, plein de problèmes de santé associés à ça. Donc, clairement, faire du sport et faire du sport où on va mettre un peu d'intensité, c'est d'autant plus important quand on est vieux. Et moi, mon rêve, j'espère sincèrement que quand j'aurai 60, 65, 70 ans, bah j'espère que je continuerai à faire du sport assez intense. Pourquoi pas du squat, du soulevé de terre lourd. C'est ce que je disais une fois. Je disais, allez, à 70 ans, j'ai envie de faire 200 kilos au soulevé de terre. Ça serait bien.
Moi, je me rends pas compte, mais je vais te dire un truc, parce que ici, la logique de KM42, c'est qu'on veut devenir champion du monde de notre monde. Donc ça, c'est dans le présent, pour devenir des vieillards galopants dans le futur, tu vois.
Je trouve ça très bien.
ça, c'est un truc que, auquel je tiens, sur le bien vieillir et tout. Et il y a 6 mois maintenant, j'ai fait un épisode avec Alain Gustave. Tu vois qui c'est Alain Gustave ? Le monsieur suisse là, qui fait des trucs là, et tout.
Exact,
là,
j'ai vu. Ouais, ouais, super.
Ce qui est dingue, c'est qu'il a commencé super tardivement, qui montre qu'on peut prendre du muscle. Alors bien sûr, il prend, avec le volume qu'il fait, il ne prend pas du muscle comme un gamin de 20 ans. C'est la nature, tu l'as dit, hein, on perd, on compense et tout, mais on voit, n'empêche qu'il a fait, il arrive à soulever son poids, il arrive à faire des tractions, des charges, des trucs comme ça. Il râle même parce qu'il n'arrive pas à faire certains mouvements. Et moi, le jour où je l'ai eu, j'ai essayé de faire 3 tractions, je me suis dit, putain, mais t'as aucune force dans les bras, mon pauvre Bertrand, et tout, il va falloir t'y remettre quand même sur ce truc-là. Donc, ce qui montre, en plus, c'est pas un sportif de tout temps, quoi. C'est quelqu'un qui a commencé très tardivement à le faire. Donc, c'est intéressant, c'est de montrer que c'est possible, que ça le revient. J'ai en tête aussi ces petites mamies à qui on a fait monter la Tour Eiffel, alors que certaines ne marchaient plus. T'avais vu cette histoire dans un EHPAD, ils avaient un projet de les faire monter à la Tour Eiffel, premier étage au moins, et dont en les faisant monter les escaliers dans la maison de retraite, etc. Tu vois, c'était un projet comme ça de, pour leur faire faire du sport par un éducateur sportif. Et ben, elles se sont rendues compte qu'elles sont devenues beaucoup plus mobiles, alors que dans les EHPAD, tous ceux qui ont des personnes en EHPAD, on sait malheureusement que souvent on les voit dans une chaise. Mmh. Et moi, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui avait le col du fémur, qu'elle s'en est jamais relevée. Et tu parlais, hein, on sait que les fractures de hanches et compagnie, la mortalité derrière, elle s'accélère vraiment beaucoup, beaucoup, justement parce qu'il n'y a plus de force, parce que ces os qui sont faibles, etc., parce qu'il y a tous ces trucs-là qui rentrent en compte. Et c'est pour ça que dans notre projet de devenir des vieillards galopants, et moi, le premier, je me l'applique, je dis, il faut qu'on fasse la musculation, qu'on porte un peu de poids, qu'on fasse un truc dans ce genre-là. Parce que, tu vois, moi, j'ai beaucoup couru et je me dis, la course, c'est bien, mais ça fait fondre. Et c'est pas ce qui me fait prendre du muscle. J'ai pas envie d'être un peu tout flasque, tu vois. Genre, c'est mon projet de tout. Et je dis, il faut quand même trouver un moyen à un moment donné. Et on en revient, on aime pas et tout. Mais il y a quand même un moment donné, il faut rajouter quand même, porter du poids, porter des charges et tout. Et j'en reviens toujours à cette pub que tu dois connaître, tu sais, c'est... un papy qui s'entraîne dans une grange là et tout, et il porte des trucs, on se demande ce qu'il fait, et puis à Noël il y a son petit-fils qui lui saute dans les bras et on voit les mêmes gestes. J'ai vu des vidéos aussi en ce moment qui tournent où tu vois une femme qui fait un squat ou je sais pas quoi, ou qui porte un poids lourd et qui ensuite tu vois qu'elle est en hôtesse de l'air et qu'elle monte les valises, tu vois, tous ces gestes du quotidien, etc. Je trouve que c'est vachement intéressant en fait de se rappeler que il y a des gestes de musculation, des trucs comme ça qui semblent réservés en apparence pour la gonflette, mais qui sont en fait des gestes santé. Et y compris des gestes pour être plus en forme, mieux se tenir, éviter aussi les douleurs à long terme.
Ouais, tout à fait. Mais c'est ce que je dis des fois en consultation. J'ai des patients qui me disent « Oh la vache, le soir, vous devez être vachement fatigué quand ils me voient faire des manips. » Et sous-entendu, physiquement, vous devez être fatigué. Et je leur dis honnêtement, pas du tout. Genre vraiment, le soir, jamais je me dis « Oh là là, je suis épuisé physiquement. » quoi. Si j'ai une fatigue, elle est plus mentale, liée au fait d'échanger avec les gens, de réfléchir, etc. Physiquement, zéro. Alors que des fois, j'ai des patients, ils font 100, 110 kilos, zéro fatigue. Pourquoi ? Bah parce que je fais du sport à côté. Parce que quand on soulève 175 kilos à la salle, bah, même quand le gars il fait 90 kilos, on s'en fout en fait. On sait qu'on est capable de le faire. Et dans la vie de tous les jours, je me prends pas la tête de comment je me penche pour porter une charge. Parce que j'ai tellement l'habitude de porter des charges lourdes dans plein de sens différents que j'ai mon fils qui pèse 22 kilos, je peux le prendre dans tous les sens, je peux me pencher devant, du côté, machin. Je sais qu'a priori, mon corps, il a l'habitude. Donc en fait, ça me donne aussi une liberté d'esprit qui fait qu'en fait, je peux ne pas y penser en fait. Et je pense qu'il y a de ça en fait. Ça... J'ai certains amis qui sont éducateurs sportifs et qui partagent des fois des témoignages de gens qui n'ont jamais trop fait de sport parce qu'ils n'aimaient pas ça et qui s'y sont mis et qui se disent « Waouh, c'est incroyable en fait, je me rends compte à quel point la vie est plus facile maintenant que je fais du sport. Genre, je me rends compte qu'avant je montais 2 étages, j'étais essoufflé et ça me semblait normal en fait. Et maintenant, bah, en fait, j'arrive à en monter même 4 ou 5 sans aucun problème. Avant, je portais mes courses, je galérais, maintenant j'arrive à le faire plus facilement. » Et en fait, c'est ça en fait. On fait du sport parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on a peut-être un côté défi personnel, dont on a envie de s'améliorer. Mais à côté, on en récolte les bénéfices dans la vie de tous les jours où tout est plus facile en fait. Tout est plus facile. Et on s'en rend compte là aujourd'hui, on a 35-40 ans. Je pense que la différence est encore plus marquée quand on en aura 70, quoi, si on continue. Donc il faut continuer, c'est clair.
Ouais, non, mais on va continuer. Moi, j'ai commencé le sport à 40 ans, tu vois. Tu vois, j'avais arrêté pendant 15-20 ans, bon, pris du poids, enfin, tout le truc du hamster, tu vois, qui tourne dans sa roue au lieu de tourner autour des chemins et tout. Et c'est vrai, tu as raison, je me rends compte, parce qu'il y a des histoires de maladies, des histoires de douleurs, mais même les douleurs du quotidien, j'ai envie de dire, les mal de dos, alors, mis à part mon histoire quand je suis resté assis. Mais où, tu sais, après, il y avait une espèce de cercle, en fait. C'est-à-dire que ma grosse douleur de dos, hernie, sciatique et tout, venait aussi après les arrêts de quand je me suis fait opérer du genou, 6 mois, tu vois, 9 mois sans rien faire. Et tu retournes dans les mauvaises habitudes, rester plus sur le canapé, rester plus assise, moins, tu vois, dans toutes ces positions-là et tout. Et c'est vrai que moi, au début, j'avais perçu, je me disais, je vais plus voir mon médecin. Enfin, je ne veux plus voir mon médecin, je ne coûte pas cher à sécu, juste mon certificat médical chaque année pour aller faire des courses. Maintenant, il n'y en a même plus besoin. Donc, tu vois, j'aurais pu ne pas avoir de médecin pendant je ne sais pas combien d'années. Et j'étais super content et tout. Mais après, c'est vrai que sur les mouvements, tu vois, sur porter des choses, sur porter un sac à dos, de ne pas être fatigué, de se dire, je peux me partir balader 2-3 heures sans que ça pose problème. C'est vrai que sur ce truc-là, on ne s'en rend pas compte sur l'instant, mais qu'au bout de quelques temps, en fait, quand on reprend, pour ceux qui s'en rendent compte aussi, ceux qui sont blessés, s'en rendent compte aussi que des fois, on perd un peu vite. Moi, le simple fait de refaire marcher des gens, c'est vrai qu'ils se rendent compte de la différence. Monter les escaliers, ne plus être essoufflé, parler au téléphone et sans être essoufflé en marchant. Et ça, c'est un truc. Je parle de personnes qui ont 40 ans. Hein. C'est des changements qui sont dingues. Et je me dis, sur le corps, à long terme, c'est difficile à mesurer quand même. Parce que dire ça enlève les douleurs, etc. Je ne sais pas s'il y a des études qui sont même capables de prouver ça, toi qui as le côté scientifique et tout. Mais j'ai en tout cas la croyance que ça limite, en tout cas, les effets néfastes de la vie sédentaire dans laquelle nous sommes coincés dans nos bureaux.
Alors attends, on m'a envoyé hier, un de mes abonnés m'a envoyé une étude, 2015, donc ça date pas d'hier, les bienfaits des exercices physiques dans le cadre de 26 maladies chroniques. Donc, en gros, on sait que activité physique, c'est bien, oui, certes, c'est bien pour le mal de dos. Là, je vois, ça fait quoi ? Effet positif dans plein de problématiques psychiatriques, dépression, anxiété, stress, schizophrénie même, démence, Parkinson, l'obésité, l'hyperlipidémie, donc le fait d'avoir trop de graisse dans le sang, les syndromes des ovaires polykystiques, le diabète de type 2, l'hypertension, les problèmes cardiaques évidemment, au niveau pulmonaire, au niveau de l'arthrose, de l'ostéoporose, du mal de dos, de l'arthrite rhumatoïde, cancer, etc. Donc ouais, comme on dit, si l'activité physique c'était un médicament, tout le monde se l'arracherait quoi. Si c'était juste une pilule à prendre comme ça, tout le monde se l'arracherait. Donc ouais, faites du sport, trouvez un truc qui vous plaît, allez-y progressivement, et faites du sport, ça vous fera du bien. Voilà, c'est cool.
C'est drôle parce que cette histoire de pilule aussi, c'est ce qu'on dit du sommeil. Moi, ça tombe bien, c'est ma philosophie, c'est Sam. Sommeil, alimentation, mouvement. Donc, on a réussi à boucler sur le truc. En tout cas, je te remercie pour cette discussion. Alors, il y a quand même un truc que je dois prévenir les gens, c'est que quand ils vont aller voir ton compte, ils vont voir que des fois, t'es un peu, alors j'allais dire un peu taquin, un peu chafouin, un peu piquant avec ceux qui racontent un peu des conneries. Avec certains. Il y a eu quand même des trucs. Enfin, t'as des influenceurs fitness, muscu et tout, ils t'en veulent, quoi. Tu vas contredire leur mode de pensée et tout, donc ne soyez pas surpris. Mais c'est intéressant, en fait, comment tu débunks, comment tu as cherché, comment tu expliques. Tu prends beaucoup de temps dans les explications. C'est vraiment super intéressant, parce que l'une des vidéos, là, Négal, qui t'a lancé des menaces, là, quand même, j'avais vu ces vidéos, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec, sur ce truc? Tu sais, j'étais un peu surpris par ce qu'il racontait. Et toi, d'un coup, tu ressors la vidéo là-dessus, je me dis, ouais, attends, faut que je regarde le truc. Et c'est vachement, mais tu dois y passer un sacré temps quand même d'aller débunker ces trucs-là, d'aller analyser, d'aller chercher tout ça, là.
Alors, il y a une époque où, pour faire des vidéos, je pense que j'ai certaines vidéos sur YouTube, je pense que j'ai plus de 100 heures de travail dessus. Je pense notamment des grosses vidéos que j'ai faites sur est-ce que porter des charges lourdes, c'est mauvais pour le dos, est-ce que porter avec le dos rond, c'est mauvais pour le dos. Celle-là, j'avais plus d'une centaine d'heures de travail dessus. J'essaye de travailler pour essayer d'aller un peu plus vite, parce que 100 heures de travail, c'est beaucoup quand même. donc là, maintenant, j'essaie d'y aller un peu plus efficacement, un peu plus rapidement. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à faire quelques vidéos de réactions. C'est jamais spontané, c'est-à-dire que mes réactions, c'est jamais je me filme et je dis ce qui me passe par la tête. C'est toujours réfléchi, c'est-à-dire que je le script avant, j'essaie d'aller vérifier les infos, je mets les sources et j'essaie de mettre de la nuance là où il y a de la nuance et surtout j'attaque pas les personnes en fait, c'est-à-dire que je dis jamais un tel c'est un gros con, parce que il y a des choses que j'ai dites qui étaient fausses, Et c'est OK, en fait, parce qu'on apprend régulièrement des choses et on peut revenir sur ce qu'on a dit. Et je pense que c'est important de pouvoir revenir sur ce qu'on a dit quand on s'est planté. Et ça m'est arrivé, hein, publiquement. J'ai au moins une ou deux vidéos où je me suis rendu compte où on m'a fait me rendre compte que je m'étais planté sur un truc. Donc, je l'ai dit, bah, là-dessus, je me suis planté. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'attaque pas les gens, en fait. Je dis juste, voilà ce que disent certaines personnes. Et je montre l'extrait en disant, voilà ce qu'on dit. Et voilà pourquoi je pense que c'est faux. Et effectivement, ça ne plaît pas forcément. Même si on met les formes, même si on est poli. Moi je pars du principe que j'attaque pas les gens, j'attaque les idées. Je critique les idées. Et je pense que n'importe quelle idée doit être critiquable à partir du moment où on est respectueux et où on source ce qu'on dit. C'est-à-dire que je dis, voilà, moi je... Ou bien si c'est un avis personnel, je dis c'est un avis personnel. Mais quand c'est pas un avis personnel et qu'on a des données dessus, ben je dis, ben voilà, on a ces données-là qui disent ça. Mais effectivement, ça plaît pas vraiment. Et par contre, je me suis rendu compte quand même que sur les quelques-uns que j'ai cité, il y avait quand même un pattern qui se répétait, c'est que c'était des gens qui ne citent aucune source, qui affirment les choses avec énormément de confiance, zéro nuance, c'est comme ça, point, qui jurent énormément par l'expérience personnelle et qui sont pas très intéressés par l'aspect scientifique, ou alors qui disent que oui, la science c'est important, mais qui citent jamais rien. Et surtout qui ne supportent pas la critique, en fait. C'est-à-dire que quand on leur dit, bah, en fait, c'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne, direct, ça va dans les attaques ou dans les menaces, quoi. Donc là, le dernier dont tu parles, il est allé porter plainte, hein, contre moi, quand même.
Il a porté plainte, réellement.
Ouais. Enfin, il m'a envoyé un message privé, plein de messages très gentils, me disant que je rigolerais moins dans la vie réelle, etc. Donc, il est allé il y a deux jours, normalement, au commissariat. J'ai pas de nouvelles. J'ai une de mes abonnées qui est gendarme qui m'a dit que concrètement, elle a partagé ma vidéo à plusieurs de ses collègues magistrats et qui m'a dit, je vois pas comment il peut porter plainte parce que je ne l'insulte pas, il n'y a pas de diffamation, il n'y a rien, quoi. C'est juste qu'il n'est pas content parce qu'on l'a contredit, quoi. Voilà, ouais. Donc voilà.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans certains cas où tu es revenu dessus, hein, je pense à Delavier, des gens comme ça qui ont pignon sur rue quand même dans des domaines, c'est-à-dire qu'on des bouquins, ça fait des années, moi j'en ai un en numérique, j'en ai un ici, tu vois, où je connaissais des coachs qui ont acheté ça, je connais plein de gens qui les recommandent et tout. Ce qui veut dire aussi que il y a des livres qui sont vus en plus, hein. Je sais pas depuis combien de temps ils écrivent, on va les rentrer dans la catégorie des papis muscu et compagnie. Ça veut dire que il y a quand même des choses, quand on voit certains de ces bouquins, c'est pas parce qu'ils sont vendus à des millions d'exemplaires, pour ça, enfin, je sais pas combien en quantité, faut quand même aussi à un moment donné se dire il y a peut-être des choses à vérifier, à analyser, à prendre un peu d'autres choses à côté. Il faut pas tout prendre en bloc. C'est valable pour la muscu, c'est valable pour la course, c'est valable pour l'alimentation, c'est valable pour plein de choses, quoi. Mais y compris sur certains de ces auteurs qui ont vraiment pignon sur eux, qui sont très réputés et qui ont publié je ne sais pas combien d'ouvrages et qui sont très très suivis.
Ouais. Mais c'est compliqué en même temps, quand on n'est pas du domaine, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on doit prendre et qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre. Et alors, personnellement, ça fait quelques années que je fais de la vulgarisation, mais aussi je consomme de la vulgarisation sur Internet. Mmh. Et en fait, à force, j'ai commencé à me créer certains critères qui me permettent de dire « Ok, je pense que cette personne, je peux plutôt lui faire confiance ou je ne peux pas lui faire confiance. » Pour moi, certains critères, c'est déjà, est-ce que les gens sourcent ce qu'ils disent ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils disent d'où viennent l'information pour que les gens puissent la vérifier ? Est-ce que les gens sont capables d'un peu de nuance ? C'est-à-dire que des fois, si tout est noir ou blanc, il faut se méfier quand même, parce que c'est rare que les choses soient noires ou blanches dans la vie de tous les jours quand même. Il y a souvent quand même du gris et des trucs qui se mélangent, etc. Donc si les gens ne sourcent pas, s'il n'y a pas de nuance, il faut s'inquiéter. Si les gens n'acceptent absolument pas la critique, il faut se méfier aussi. Mais vraiment pas du tout, voilà. Et surtout, si les gens ne reviennent pas sur ce qu'ils ont dit en admettant qu'ils se soient plantés, parce que concrètement, quand tu parles tous les jours ou aller plusieurs fois par semaine sur Internet pendant des années, c'est impossible qu'il n'y ait pas une fois où tu te sois planté, quoi. C'est impossible. Forcément, il y a des fois où on dit un truc qui n'est pas juste ou un peu de travers, etc. Si les gens ne sont pas capables de revenir sur ce qu'ils ont dit, bah, c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas capables, que s'ils ont écrit un bouquin et qu'il y a une connerie dedans, eh ben, ils ne vont pas forcément le corriger, quoi. Et ça peut être un peu problématique. Voilà, donc pour moi, ça, c'est des critères qui sont importants. Et autre chose, c'est est-ce que les gens, ils s'expriment dans leur domaine de compétence ? Tu peux être très, très fort en musculation, ça fait pas de toi un spécialiste de la rééducation, par exemple. C'est pas parce que tu sais comment on fait de l'hypertrophie musculaire que tu sauras comment soigner un mal de dos. Parce que c'est des compétences qui peuvent se rejoindre sur certains aspects au niveau des exercices, mais c'est pas la même chose, en fait. Moi, je vais pas donner des conseils ultra poussés sur l'alimentation parce que c'est pas ma spécialité. je vais pas donner des conseils ultra poussés sur la muscu ou la force athlétique. Je vais donner des trucs de base, mais je vais pas aller révolutionner le champ du gain de force parce que c'est pas ma spécialité, quoi. Donc ça aussi, c'est un truc, quand les gens commencent à parler de plein de sujets connexes qui sont pas leur champ de compétences à la base, la prudence s'impose. Voilà.
Écoute, voilà, c'est clair, mais je tenais à le dire parce que moi, toi, tu vas peut-être pas rigoler parce que tu dois recevoir des messages qui sont quand même pas piqués d'un ton dans certains cas. Mais vu de l'extérieur, il y a quand même des sacrées bagarres. Et t'es pas le seul, hein, parce qu'il y en a d'autres. Hein, je pense notamment à Delavier où il y a eu, je sais pas combien de messages, ça tournait et tout. C'était très intéressant aussi de voir un peu les positions. Comment, j'ai l'impression qu'il y a des, comment dire, le vent de la jeunesse un peu là, parce que t'es pas très vieux. Hein,
36 ans.
Tu dis que tu perds un peu tes cheveux, écoute, 36 ans, t'es un gamin. Il y a quand même, je trouve, et tu vois, moi, quand j'en ai parlé à McKinney, tu vois, ce McKinney McKenzie qui parle de neurosciences, qui parle de ça, quand j'écoute des gens comme ton kiné, mais Major Mouvement que j'ai eu dans le podcast et tout, on sent quand même qu'il y a dans les connaissances, il y a plein de trucs, tu l'as dit, il y a des changements, il y a beaucoup de choses qui changent, etc. Et que faut vraiment aussi se dire que les gens, s'ils se mettent pas à la page, au niveau et tout, ils restent sur des anciennes connaissances qu'ils ont apprises par eux-mêmes, par de gens qui étaient aussi sur des anciennes connaissances, et que finalement on se retrouve avec du savoir qui est très ancien, et donc qui est normal qu'il soit périmé en partie ou qui puisse être infirmé, etc. Et que c'est aussi pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir différents sons de cloche. Et on voit aussi que dans les jeunes, on va dire, vous êtes aussi sensibilisés à la vulgarisation, à l'explication, à l'apprentissage, à aller mêler des choses qui vont dans d'autres sciences et tout, et que qu'on ne comprend pas tout aussi non plus, et qu'il faut aussi savoir l'accepter, il faut être très humble dans ce domaine-là.
Tout à fait. Alors, moi, je rajouterais un truc quand même, c'est que dans une des vidéos où justement il y avait une sorte de clash comme ça, je parlais effectivement un peu des deux approches en disant qu'il y avait peut-être des plus boomers et des plus jeunes. En fait, c'est pas vraiment une question d'âge. On me l'a fait remarquer, c'est pas vraiment une question d'âge et c'est vrai. Moi, les choses que j'ai apprises et que je transmets, c'est pas moi qui les ai inventées. Hein. Elles m'ont été enseignées par d'autres personnes qui ont 45, 50 ans et donc qui sont plus proches de l'âge de Delavier ou Jamcore, parce qu'il y avait eu un souci avec Jamcore aussi. Donc c'est des gens de cet âge-là aussi qui m'ont enseigné ça. Donc pour moi, c'est plus une question de démarche. De démarche, de remise en question et de mise à jour des connaissances plutôt que de génération. Et comme tu dis, il y a une notion d'incertitude. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas totalement. Et ça, c'est un truc qui est très compliqué quand on travaille avec des humains, et notamment quand on travaille dans le soin, c'est qu'il faut accepter l'idée que on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, et il faut accepter de naviguer avec cette incertitude aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des gens, ils viennent, je suis pas sûr à 100% de ce qui se passe chez eux. Et oui, ça serait vachement plus confortable d'avoir un protocole ultra carré où je dis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, et boum, magique, ton truc est réglé. Sauf qu'il y a des chances pour que ça n'existe pas vraiment, en fait, ce genre de protocole. Ou alors, si j'ai l'impression que ça marche, ça fonctionnera peut-être pas pour les raisons que je pense. Donc, il faut accepter qu'il y ait une forme d'incertitude, et oui, c'est très inconfortable. Mais c'est juste être plus honnête avec soi-même et avec ce qu'on sait aujourd'hui, quoi, d'accepter qu'il y ait une forme d'incertitude. Et ça me fait penser à un truc que tu as dit tout au début en disant qu'il y avait certains kinés qui te disaient je ne sais pas exactement ce qui vous fait mal. Et en fait, il y a des fois où on ne sait pas exactement ce qui fait mal. Mais des fois, même si on ne sait pas exactement ce qui fait mal, on a une idée de ce qui peut soulager les gens. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de trouver la cause, entre guillemets, de la douleur. Des fois, si on a identifié un petit peu comment ça fonctionne en général, même si on n'a pas le doigt spécifiquement sur une cause unique, si tant est que ça existe, bah, des fois, on arrive quand même à savoir comment améliorer les choses. Et c'est surtout ça qui est important, en fait.
Mais écoute, c'est une très belle conclusion qui rappelle aussi que nous ne sommes pas des machines avec un mode d'emploi, que tout le monde a le même mode d'emploi, la même machine. On n'est pas des trucs fabriqués à la chaîne. On a tous des caractéristiques, des particularités, des apprentissages, des pensées. C'est très compliqué cette histoire-là. Et encore, je t'ai pas parlé, j'ai oublié une question. Donc j'en fais une dernière. T'es papa, je suis papa. Ma petite fille, elle a 6 ans. Des fois, elle se fait horriblement mal en se tapant. Je dis horriblement mal dans ses dires et tout. Et c'est là qu'intervient la pensée magique, le bisou magique ou les choses comme ça et tout. Et je ne peux pas m'empêcher de dire, mais c'est quoi qui la calme en fait dans cette histoire-là? C'est juste de dire oui, d'accord, je comprends que tu aies pu te faire mal et on va s'occuper de ça et d'un coup, ça va mieux?
Bah oui, carrément. Alors, oui, même s'il y a un aspect purement nociceptif, encore une fois, etc., bah le fait qu'on nous rassure, le toucher peut faire du bien. Hein. Il y a des effets thérapeutiques et antalgiques au toucher, à la fois sur la zone douloureuse, mais même en général. Et l'aspect émotionnel de « on entend ma souffrance et on est là pour m'aider », en fait, ça soulage déjà, en fait. Et c'est ce qui manque parfois à certains professionnels, en fait. C'est ce qui manque parfois à certains professionnels, juste d'être capable d'entendre la souffrance des gens, et d'être là pour leur dire j'ai entendu votre souffrance, on va regarder ensemble, et en fait une fois qu'on a fait nos trucs on dit bah ça va bien se passer. En fait ça a déjà énormément d'effets antidouleurs, en fait. Et effectivement ça fonctionne bien chez les enfants, mais ça fonctionne aussi chez les adultes, hein. On est pareil, hein. Quand on a mal, si quelqu'un est là et qu'il est capable de nous prendre et de dire j'ai bien regardé et en fait je comprends vous avez mal, mais il n'y a rien de grave, ça va passer, et ben en fait souvent ça va déjà mieux.
Eh bien, écoute, c'est une deuxième belle conclusion. Donc sur ce, on va clôturer ici. Alors, bien entendu, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Parce que tu as, donc on a dit, compte Instagram, chaîne YouTube, TikTok, je sais pas si tu es sur TikTok.
Ouais, je poste pas tout sur TikTok. Je suis trop vieux pour ces conneries.
dit-il. Non, ouais. J'ai vu. Alors, t'as pas écrit de livre, toi, mais tu vends de la formation, t'as des trucs comme ça, ouais. Pour ceux qui veulent aller,
ouais,
plus loin.
C'est pour les professionnels,
c'est pour les spécialistes.
C'est pour les professionnels. Ouais. C'est une formation pour professionnels. C'est surtout des ostéos, kinés et éducateurs sportifs qui la suivent sur l'accompagnement des sportifs douloureux. Donc, où on parle de comment ça fonctionne la douleur, qu'est-ce qui semble avoir une influence ou pas, l'importance de la communication et comment on peut adapter l'entraînement d'un sportif qui a des douleurs.
Voilà, bah écoutez, les pros qui nous écoutaient, hop, vous pouvez aller voir, cliquez sur les liens. De toute façon, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. On retrouve tout sur ton site, sur ta newsletter. Hein. Et oui, je suis abonné, donc maintenant je vais voir ça. Pierre-Élie, c'était un plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Ça fait un bout de temps, je voyais tes vidéos, je vois ton et tout. Et c'est vrai que j'apprends plein de choses. Et j'aime bien ton ton, en fait. J'aime bien ce ton que tu as, cette vulgarisation, ces explications. Je comprends aussi le côté posé, d'aller dans le détail et tout. J'ai recommandé plusieurs de tes vidéos dans mes newsletters aussi, au passage, en disant, ou sur Instagram, en disant, celle-là, il faut aller voir, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment très intéressants. Donc, je te remercie beaucoup. Je pense que tout le monde a compris un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Ou en tout cas, comment on pense que ça peut fonctionner, à quel point aussi il faut y mettre de la nuance, hein, de l'humilité dans tout ça. Je te remercie, je te souhaite une très très belle journée, une très belle semaine. Et puis nous, écoutez, on se retrouve le samedi pour le conseil, le lundi pour l'épisode Samy, et puis la semaine prochaine, nouvel invité. Je ne sais même pas qui c'est pour l'instant, mais j'ai des idées. Je vous garantis, dans les invités, hier j'ai fait une liste des invités qui vont arriver. Il y a des trucs, ça va être sympa, ça va être cool et tout. Je ne sais pas s'ils ont mal quelque part, franchement, mais en tout cas, ça va bouger. Voilà, je dis ça va bouger. Il y a des chouettes défis, des chouettes aventures. Et toujours dans cette optique, on est champion du monde de notre monde et billards galopants et galopantes. Et tu nous as aidés, tu nous as donné des pistes aussi pour nous conforter dans le fait que ça soit le bon mouvement, la bonne démarche à suivre. Merci Pierre-Élie.
C'est cool. Bah, c'est cool, merci à toi.